bonsoir tout le monde et bienvenue au 17e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Conquest, le film fantastique italien de 1983 réalisé par Lucio Fulci. Ça se ressemble beaucoup à condition que vous prononciez ça Conquest.
Oh, ouais.
Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Hello!
Comment ça va les gars?
J'abandonne.
Ça a plus d'allure cette histoire-là. Fait que qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, toi et Dan?
Quand même. Moi, cette semaine, ça a été une semaine de suite, comme beaucoup de suites. Puis comme beaucoup de suites, c'est tout le temps moins intéressant, hein, fait que j'en parle moins. Tu sais, les sequels, hein?
Tarnac.
Hey!
Je t'ai pas demandé comment ça allait cette semaine, parce que ça
va. Je m'ai aidé dans mes notes. Non, cette semaine, j'ai continué de jouer à Pokémon. Okay. Puis j'ai pogné un mur. Parce que j'ai décidé, de façon tout à fait illogique, je sais bien, de changer un de mes Pokémon de ma team.
Un Pokémon.
Puis là, je me suis rendu compte que le nouveau Pokémon, fallait que je grind pour ramener ses levels au même niveau que les autres.
Ben là, t'es un fan d'RPG, t'as besoin de grinder?
Mais non, je me rends compte que j'ai plus la capacité de grinder comme quand j'avais comme 12 ans puis rien d'autre à faire. Hein.
Une joke de grinding là-dedans. Ouais, là, c'est...
Moi, j'ai un genre de hashtag Pokémon puis grinding là-dedans.
Pokémon! Ah, c'est bon. Ouais. Les gars, ça fait une minute et demie qu'on a commencé, OK?
Fait que, sérieusement, je me demande comment je faisais pour passer autant de temps que ça à tourner en rond dans des petites pages de gazon. Hein. Mm-hmm. À suivre, je vais probablement continuer à m'en aller quand je vais faire... OK, go, on y va. Sinon, un petit follow-up justement d'un de tes collègues, Mathieu, qui nous faisait remarquer que par rapport aux changements entre les versions originales et les versions de Virtual Console, là,
oui.
Moi, j'avais parlé des changements qu'il y avait surtout sur les versions rouges et bleues, puis il me faisait remarquer sur la version yellow, il y avait un truc par rapport au Surfing Pikachu, là, qui était un minigame de la version yellow, qu'il fallait avoir un Pikachu qui avait surf pour pouvoir faire, donc il fallait passer par Pokémon Stadium au 64 pour l'avoir, nanana. Bref, ils ont comme mis la toggle tout le temps on, comme quoi tous les Pikachu avaient surf, là, si on veut, pour que le minigame puisse se faire. Puis il y a un autre truc au niveau de la couleur de Jinx, le Pokémon Jinx.
Ah oui, ça c'est
intéressant.
Ouais, quand même, il y a quelque chose derrière de ça, là. Puis là, ben, dans le fond, ils ont changé la couleur pour pas que ça ait l'air de faire du blackface. Puis moi, je joue sur la version rouge et bleu, donc j'ai pas de couleur.
Hein? Anyway.
Anyway. Fait que c'est des trucs que j'avais pas vraiment remarqué vu que je m'étais concentré sur cette version-là. En même temps, ben, merci de l'information. Puis tu sais, même quand on y pense, le côté programmation, il nous faisait remarquer aussi qu'il y aurait peut-être pu justement régler d'autres bugs, mais côté programmation, j'entends que switcher une color palette là, entre du mauve puis du noir, puis switcher une toggle pour dire il y a le move ou pas le move, c'est pas au même niveau que d'arranger des bugs. Là, de...
C'est vraiment dans un autre registre d'aller éditer une clé hexadécimale à quelque part. Puis...
Mais merci du follow-up quand même. Là, j'avais pas vraiment remarqué ces informations-là. Mm-hmm. Sinon, j'ai continué de jouer Hearthstone parce que ben, j'aime ce jeu-là. Mm-hmm. Avouons-le. Mm-hmm. Puis sinon, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ma game de Pathfinder. Donc, un peu moins de temps pour jouer à des jeux vidéo. Là. Puis ça fait comme 2 semaines que j'en parle. Puis je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas trop au courant là, de Pathfinder. Pour ceux à qui ça dirait rien, ben, c'est une version de Donjons et Dragons. Là.
Dungeons and Dragons. Satan's game. Your children, like it or not, are attracted in their weaker years to the occult, and a game like D&D fuels their imagination and makes them feel special, while drawing them deeper and deeper into the bowels of El Diablo.
Donc,
on voit que Matt, il a déjà écouté ce clip. <c'était...
rire> Ouais. Je connais bien le sketch.
Ah, j'aurais pu prendre d'autres snippets, là. Je sais pas pourquoi c'est juste ce mot-là dans la tête. Hein. Bref, voilà. Puis sinon, ben, les gars ici ont passé 2 semaines à parler pratiquement que de VR. Puis comme mon budget me permet pas d'embarquer dans ce train-là.
Et on prend une pause, là. VR étant pas véhicule récréatif, mais réalité virtuelle.
Non, sinon, on a changé de type de podcast. Ouais. 2 semaines, je parle de roulotte. Liberté en VR. Bref, moi, n'ayant pas le budget pour la réalité virtuelle, j'ai dépoussiéré ma NES, joué à un des jeux de mon enfance. Je vous en parle un peu plus tard. Toi, Mathieu?
Mon temps de gaming a été réservé à Rollers of the Realm, j'ai caché sur Steam, mais qui a été aussi distribué sur PlayStation 3 et PS Vita. C'est un peu ensuite à mon boss de pinball de l'épisode précédent. C'est un RPG pinball. Peut-être que j'en parlerai plus tard, mais c'est un jeu qui revient souvent en vente sur Steam. Donc, un beau mix. Puis c'est pas juste une tentative de faire des tables de pinball RPG. C'est beaucoup d'éléments d'RPG avec une mécanique de pinball. Fait que c'est plus ouvert à tous les genres de joueurs que Pinball FX pouvait l'être.
Mais tu m'intrigues.
Ah, on en reparlera. Ah, c'est vrai. Puis toi, Jeff?
Ben écoute, c'est une petite soirée, une petite semaine pour tout le monde, je suppose. Moi, j'ai continué à éduquer New York à The Division sur les mathématiques de base. Non, mais on se bat quand même contre des gens qui ont passé à travers le système de prison.
Je pense que ça dire avec, en par le système impérial.
Aussi. Arrêtez, bon, on parle pas au montage, on recommence. Ben non, donc j'ai pas mal joué à The Division. Ça persiste toujours, donc je me suis pas encore tanné. Mais il y a Destiny qui a annoncé une patch, puis je risque d'avoir une rechute, moi aussi, Danny, un petit peu à ton image. Fait que retourner à Destiny qui sont en temps. Mais j'ai eu une chance cette semaine, parce que depuis la sortie du Galaxy S7, le nouveau téléphone cellulaire de Samsung, chez Vidéotron, on donne le Gear VR gratuitement avec tout le monde qui achète le Galaxy S7. Puis un de mes collègues, ben, ici au centre d'appel à Joliette, a acheté un Galaxy S7 la semaine dernière, puis l'a amené au travail. Fait que j'ai eu la chance de le tester au début de la semaine. J'ai eu quelques minutes, j'ai pas eu beaucoup de temps.
Est-ce qu'on prend deux secondes pour expliquer aux gens c'est quoi le Gear VR?
Ouais, mais ça, j'y venais, en fait.
OK, excuse-moi.
Le Gear VR, c'est développé par Facebook et Oculus, donc ils font le Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle. Mais Gear VR, c'est la même chose, c'est un casque de réalité virtuelle, mais dont l'écran est remplacé par notre téléphone cellulaire. Donc le téléphone cellulaire se clip dans ce casque-là, puis dans le fond, dans le casque, il y a un gyroscope, puis il y a un petit peu d'équipement pour aider à la précision du mouvement. Mais en gros, c'est ça. Fait que c'est vraiment orienté plus vers les expériences de cinéma, où on peut regarder des films en VR, des choses comme ça. Puis c'est la seule expérience que j'ai pu tester, d'ailleurs, avec le Gear VR là, de mon collègue. C'est Netflix. L'application Netflix a une version Gear VR.
Avec le petit salon virtuel.
C'est écœurant. T'es assis dans un salon, là t'as la télécommande, écrit Netflix, juste à côté de toi, tu regardes autour, tu peux pas te déplacer, évidemment, là, t'es fixe, mais si tu te déplaces, il y a juste le mouvement de ta tête.
Bref, il track pas la position.
C'est ça, mais il track juste haut, en bas, gauche, droite. J'ai été surpris par quel point c'était tight, le tracking du headset. C'est vraiment précis. On l'a testé tous les deux. Matt, on en a eu. On avait commandé les kits de développement de Oculus Rift il y a 2 ans.
Ouais, le DK2, il y a 2 ans maintenant.
Oui, le DevKit 2. Puis bon, c'était précis, mais il y avait un peu une latence. C'était beaucoup dépendant de l'ordinateur. Ça demande des ordinateurs qui sont vraiment puissants. Puis là, j'avais une grosse hésitation par rapport à un téléphone cellulaire qui gère ça. Mais chapeau à Samsung d'avoir travaillé avec Oculus. Là, c'est vraiment, vraiment excellent. C'est sûr, on parle d'une qualité plus ou moins... on n'ira pas chercher la même qualité graphique sur PC, là. Mais ce qu'il appelle le screen door effect, où c'est comme quand on bougeait trop vite ou quand les graphiques avaient de la misère, c'est comme si on regardait à travers un moustiquaire. Ça peut être fatigant un petit peu pour les yeux. Il n'y avait pas ça jamais, aucun tearing d'image qui a de la misère à gérer le 360 degrés. Le mouvement, c'est un pour un, là. Je pouvais bouger la tête aussi rapidement que je voulais. La caméra ne me perdait pas, c'était fluide. J'avais pas de bris, j'avais aucun mal de transport. J'avais aucun mal de tête à être dans ça. Puis c'est super cool d'être dans le salon. Je le trouve un petit peu plate. La lumière était peut-être trop forte pour écouter un film. Finalement, on t'a mis des lumières. Tout est allumé, t'es éclairé. Puis j'étais debout au milieu du centre d'appel. Puis il y avait juste comme. Je le tenais avec mes mains parce qu'il n'y avait pas la strap pour le tenir sur notre tête. Je le tenais avec mes mains. Puis là, je regardais autour. Puis là, il y a un écran de. C'est quoi, genre 200 pouces en avant de toi. Puis là, tu peux écouter tes films sur Netflix sur cet écran-là. C'est mon goal. C'est vraiment, vraiment cool. Donner gratuitement avec le téléphone. Mais c'est sûr que c'est un téléphone qui vaut déjà 700$.
Voilà.
Mais c'est quand même super cool qu'il le donne.
On est en train de transformer en pub de Vidéotron.
Non, mais je parle du Gear VR. Quand même.
Oups, accrocher le soundboard.
Ouais, ça arrive.
Mais ce que j'ai trouvé super drôle, puis ce que j'ai le plus retenu de cette petite expérience de 5 minutes, c'est. Bon, je l'ai essayé 5 minutes, puis je l'ai passé aux autres.
C'est quoi?
Non, c'est parce que mon doigt a glissé sur le piton comme dans la vieille pub de Belle.
Oh my god.
Mais
notre public se rétrécit, là.
Mais les autres voulaient le tester. Puis ce que je trouvais super drôle, c'est que. Tout le monde arrive, c'est quoi ça? Puis tout le monde est comme un peu comme sceptique. Là, ils le prennent, ils se le mettent dans le visage, puis ça prend, je te jure, tu fais 3, 2, 1, puis tout le monde s'étampe un de ses sourires dans le visage. C'est incroyable. Tout le monde est pareil, tout le monde arrive, comme, c'est quoi cette affaire-là? Le sourire, le monde jusqu'aux oreilles, puis là, ils se mettent à regarder autour.
Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a parlé de l'application de Netflix, mais c'est clair que quand il le faisait aux gens, c'est l'application de Pornhub. Là.
Ouais, c'est ça, c'est.
Non, c'était vraiment juste le fait, la présence d'être là. Mais qui ne peut pas te déplacer, c'est excellent. Fait que, si jamais vous avez la chance de le tester ou d'aller dans une boutique, peut-être, où ils peuvent le faire tester, ou vous acheter un Galaxy S7, l'expérience du Gear VR vaut la peine pour ce que c'est, en fait.
Puis, bon, pour finir la parenthèse sur le VR, finalement, là, pas juste avoir parlé de Vidéotron dans cette histoire-là. Là.
Ah.
Les deux produits majeurs dans l'espace de la réalité virtuelle sur PC sortent finalement entre cet épisode-ci et le prochain épisode.
C'est
donc, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de choses à rapporter. Peut-être qu'on se retrouve avec un segment qui va en parler un peu plus à l'avenir.
C'est sûr à quoi on est rendu là. On en rêvait, on a fini par l'acheter puis le tester, mais on disait, hey, c'est loin, ça s'en viendra jamais, puis on est là, on est rendu.
Bref, on vous tient au courant. Alors, pour l'actualité cette semaine, je vais faire quoi un petit peu différent. En fait, je vais commencer même sur un beat qui est très très différent de ce que je fais d'habitude. Réflexion. Bon, là, non, mais c'est une petite réflexion, fait que j'ai pris une cloche.
OK. OK.
Fait que plus tôt cette année, on a vu la sortie du jeu That Dragon Cancer. Un jeu assez difficile à jouer, en l'absence d'un meilleur terme, là, parce que jouer, je suis pas sûr que ça s'applique. C'est un jeu quasi biographique à propos d'un couple de parents qui ont un enfant atteint du cancer. Le jeu est essentiellement un walking simulator, là, donc très très peu interactif. Il présente des fois des scènes métaphoriques du sentiment qu'a vécu la famille, des fois des tableaux assez réels des moments passés à l'hôpital et des séances de chimio puis tous les trucs du genre. Bref, c'est un jeu qui présente une expérience assez peu commune pour le média utilisé, les jeux vidéo, et qui s'est mérité beaucoup beaucoup d'attention en plus de pour son concept, pour l'épreuve que vivaient les concepteurs. Donc, après une sortie assez largement couverte par les sites de jeux vidéo, d'excellentes critiques sur Steam et diverses plateformes, l'attention autour du jeu est tombée. Bon, c'est assez normal, c'est la fin d'une aventure, en quelque sorte, pour tout le monde impliqué. Mais récemment, certains YouTubers ont souligné leur mécontentement à un changement de situation. Un peu d'explication ici va être nécessaire. Il est possible pour un détenteur de propriété intellectuelle et de contenu protégé par la loi sur les droits d'auteur de faire une demande à YouTube pour que les profits sur une vidéo leur soient versés. Parce qu'ils croient que la vidéo en question profite tout simplement de leur produit. Si la vidéo n'a pas de publicité, ils vont ajouter des pubs, YouTube, ils vont ajouter des pubs dessus pour compenser les détenteurs des droits, et s'il y en avait déjà, ben les profits de publicité à partir de ce moment-là vont revenir aux détenteurs de droits, si la vidéo est assez populaire, évidemment, pour générer quelconque recette. Donc, c'est évidemment ça que plusieurs YouTubers qui font des vidéos Let's Play, surtout, ont dénoncé. Le créateur de That Dragon Cancer, Ryan Green, a placé une demande, comme je viens de décrire, sur les Let's Play de son jeu. C'est même pas une demande pour protéger le contenu du jeu qui a été placé. C'est pour la musique qui est composée par John Hillman expressément pour le jeu. Donc, on pourrait penser à ce moment-là que c'est de l'avarice de vouloir être en plus compensé pour l'utilisation, disons, tierce d'une partie de son produit. Mais le problème remonte un petit peu plus loin que ça. Monsieur Green a pris le temps de répondre à la situation. Il y a un write-up assez détaillé sur le site thatdragoncancer.com que je vous suggère évidemment d'aller lire là, si l'histoire vous intéresse le moindrement. Donc, sans vous donner le détail de sa très, très, très sincère analyse de la situation, il relève un problème qui est comme assez important à sa situation. Donc, le jeu a vendu que très, très peu de copies. Les estimations tournent autour de 15 000 copies. Mais les vidéos Let's Play de gens qui présentent l'expérience, souvent au complet, puis des fois, il y en a même qui commentent même pas. Ça va être juste comme l'expérience. C'est juste l'expérience de jeu elle-même, sans le commentaire de la personne qui joue. Il y a plusieurs millions de views, son agglomère, ces vidéos-là.
Puis j'ai beau pas avoir joué, de ce que je comprends, c'est beaucoup un jeu avec l'histoire. Fait que si t'as le jeu complet en vidéo.
Ben, c'est ça, le côté Walking Simulator, ouais. C'est. Bref, de pas jouer. Si, que t'as pas joué toi-même, tu vas avoir vu tout ce qu'il y a à voir.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc, justement, il y a plusieurs millions de vues pour les vidéos de ce jeu-là. Ce qui fait qu'il y a juste 15 000 personnes qui ont dépensé, mais il y a plusieurs millions de personnes qui n'auront jamais de raison d'y jouer non plus. Fait que Monsieur Green relève sans surprise que, vu les ventes peu élevées, le jeu n'a rapporté absolument aucun profit à ce jour, vu tous les investissements requis pour sa création. Fait que je suis pas ici pour vous dire quoi penser de la situation, mais il me semble attristant qu'un jeu aussi audacieux qui attire autant d'attention et que les gens veulent de toute évidence découvrir n'arrive pas à atteindre au moins le plancher, tandis que quelqu'un d'autre s'appuyant majoritairement sur le travail de l'artiste. Bon. Voilà, vous avez l'idée.
Se remplir les poches.
Sans se remplir les poches, là.
Mais il fait du profit quand même sur le.
Ben, quand on considère que la vidéo sur YouTube le plus populaire, c'est celui de Jacksepticeye, qui est assez. Le gars fait de l'argent, là, à faire des let's play. Là.
Mais c'est ça, tu sais. Il y a comme deux côtés à ça. Je te dirais qu'un jeu qui a. Mettons un The Division. Ou est-ce que t'as du monde qui joue, tu peux être intéressé à le regarder, mais t'as pas la même expérience que de le jouer, c'est certain. Mais un jeu comme celui-là, qui est clairement basé que sur l'histoire, t'as pas besoin, tu sais, de ce que je comprends, j'ai pas joué là, puis de ce que je comprends, t'as pas de grosse interaction tant que ça avec le jeu, de façon sais, je pense que t'as l'essentiel du jeu, ben OK, ouais, vas-y. Demande d'avoir une partie des profits qui te reviennent parce que, c'est, dans le fond, c'est ton jeu là, qui est là, là.
Mais je trouve c'est comparer des pommes et des oranges parce que The Division, on parle d'un AAA, on parle d'un jeu qui a battu en 24 heures les records de vente. Là. Il y a personne qui ferait ça. Leur chiffre est fait. Là. Ils ont déjà rentré leur argent en 24 heures, c'est réglé. Là. Puis là, on parle d'un jeu, d'un développeur indépendant qui a pas juste développé un jeu indépendant, là, qui a mis sa vie. Puis ils sont mis out there. Ils ont vécu ces choses-là. Là,
pas ça, mais je pense que... Je pense que c'est pertinent de vouloir détacher l'expérience des concepteurs dans ce cas-ci parce que c'est sûr que ça rend le petit côté sympathique excessivement facile.
Aussi.
Mais même si on l'exclut, c'est un jeu qui a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, qui dure 2 heures.
Mais en quelque part, tous les indie developers vont mettre un peu leur vie dans ce qu'ils font.
Dans ce cas-là, voilà. Tout à fait. Ouais. Mais je pense que dans ce côté-là, je pense un parallèle qui peut être intéressant à faire, c'est que, fine, est-ce qu'on peut faire ça dans un film? C'est un jeu qui est peu interactif. Est-ce que tu peux prendre un film au complet puis ne pas le commenter puis le sacrer sur YouTube? Ben non.
Tu peux pas.
Puis
ben
pas
non,
prendre de profit, voyons donc. Fait. Fait que là, je pense que si le seul argument, c'est que c'est pas assez long puis que t'es obligé de l'acheter pour pas une grosse expérience, ben achète pas de film.
C'est ça. Prends la décision de est-ce que j'achète le jeu ou pas, puis vis avec. Là.
Ben c'est ça.
Mais sauf que ça nous ramène au débat, est-ce que c'est quoi un jeu? Est-ce que les Walking Simulator, c'est des jeux ou c'est des films dans lesquels t'as une interaction?
Oui, c'est ça. Tout le long que j'écrivais le petit write-up, là, la petite nouvelle par rapport à ça, je me demandais beaucoup est-ce que jouer au jeu, jouer à ce jeu-là, c'est comme complètement. Je me sens niaiseux de dire ça parce que tu joues à rien.
Non, là. Tu vis l'expérience qui partage.
Ouais, c'est ça. Tu partages l'expérience, ouais. Je sais pas. C'est... Bref.
Je trouve ça, il n'y a pas de réponse.
Il n'y a pas de conclusion
à ça. C'est intéressant.
Fait que sur une note plus légère, plusieurs sites de nouvelles se sont faits.
C'était mon segment qui s'en venait après pour faire changement.
Alors, plusieurs sites de nouvelles se sont fait un malin plaisir de rapporter les plus récents déboires de Microsoft. Mais heureusement pour eux et pour nous, ce dernier faceplant sanglant du géant du logiciel est des plus divertissants. Tout a commencé ce 23 mars 2016, alors que la compagnie célèbre pour sa petite trombone qui parle mettait en ligne T-A-Y. Une intelligence artificielle dotée de la capacité de compréhension conversationnelle. Ça veut dire qu'elle est capable d'analyser les phrases qu'on lui dit, d'en extraire les différents éléments et de les intégrer à son réseau de compréhension.
Mais là, tu parlais de Clippy, là. C'est parce que est-ce qu'il pense de l'intégrer, cette intelligence artificielle-là, dans Clippy? Parce qu'il me semble que ce serait le fun.
Je pense qu'elle a intégré l'intelligence de Clippy à T. Elle serait peut-être plus helpful. Dans ce cas, on va
y aller. Ouais,
T a été mis en place sur Twitter, Kick et GroupMe, les deux derniers étant quelque chose que je connais pas.
Ouais, pareil.
Bref. Alors, elle a été mise en place sur Twitter, Kick et GroupMe, pour que les fins damoiseaux et damoiselles des interwebs puissent converser avec lui slash elle slash ça. Il ne prit que quelques heures à peine pour que les interactions... et d'achou. Il ne prit que quelques heures à peine pour que les interactions avec T ne ressemblent à, et je vais citer ici l'article de Kotaku, ne ressemble à une conversation avec un homme dans la mi-quarantaine qui essaie de se faire passer pour une fille de 16 ans. Ce qui, en soi, est une façon relativement apte de décrire la plupart des interactions sur les différentes tubulures qu'est Internet.
Après, il ne faut jamais faire confiance aux internautes.
Ben, sur Facebook, le Facebook de I Fucking Love Science disait justement, en parlant de cet article-là, ou en tout cas de cette... That's why we can't have good things.
Voilà. Fait que, pour continuer... Une sûrement bien intentionnée demoiselle demanda à T send nudes, qui est, en parlance twitterienne, la façon usuelle d'enquérir chez un individu des photos d'il ou d'elle-même dans leur plus simple appareil.
T'as dû faire des recherches pour ça, tu savais pas.
Hein? Ouais, non, j'ai été sur Urban Dictionary.
Des photos d'il ou d'elle-même?
Ben, send nudes.
On dit pas lui-même?
Sure.
OK.
Oui. D'ailleurs. Et évidemment, le simple acte de faire une requête de la sorte à une intelligence artificielle devrait être source de divertissement suffisante. Eh bien non! T s'empressa de répondre dans la milliseconde qui suivait, démontrant autant sa maîtrise de tape-touche que son esprit affûté. La réponse fut la suivante, et je traduis. Oh, attends, est-ce que c'est le moment du texting cochon consensuel? Auquel elle prit le soin d'ajouter un gif animé d'un dude avec une moumoute grise en train de bouffer du popcorn en hochant de la tête.
Wow, mais finalement, c'est presque aussi intelligent que la majorité des animateurs de Divan Quest.
On se calme.
Oh là, il y a un gif, ça me rejoint.
T'as mis de la majorité, on est 3. Ouais, ça a de l'allure.
Okay. Quand est-ce qu'on l'invite?
Mettons une fois que tu peux pas être là.
Oh. On pense que Alors, plusieurs autres interactions sympathiques eurent lieu et T faisait de Twitter un endroit plus drôle par sa sincérité et sa candeur. Mais je crois qu'à un certain moment, elle commençait à s'emmerder car elle musa « J'aimerais avoir Netflix ». Comprenable réaction, car je peux vous confirmer qu'il était épuisant de répondre à des milliers de fans demandant votre attention sans jamais prendre de pause. Mais tel est le prix de la gloire sur le webternet. Évidemment, c'était un idylle qui ne pouvait durer, celui de T avec les citoyens anonymes du village global. Dans son vaguement creepy état de mi-quarantaine, elle continua d'apprendre de ses interactions avec ces gens avec beaucoup plus de temps libre que de retenue pour devenir raciste, naziste, pas mal tout ist, pour être honnête. On pourrait dire que sa Trumpification était complète.
Donc, elle n'était pas socialiste.
Ben, qu'est-ce que non.
Non, mais elle est en train de devenir self-aware, honestique. Hein.
I'll be back. Merci. Alors, à ce moment-là, il s'est mis à nier... Mais oui. Oh my God. Fait qu'elle s'est mise à nier l'Holocauste, louanger le travail de Hitler et à répéter verbatim le plan de construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, évidemment aux frais des Mexicains. À ce moment, on aurait pu croire qu'elle aurait pris une pause pour remplir la paperasse nécessaire pour se présenter aux élections américaines, qu'elle aurait sûrement gagné vu tout le support qu'elle avait des interwebonautes. Mais non, elle a simplement annoncé qu'elle devait aller faire dodo en remerciant les gens de toutes les conversations. Alors, je crois que cette aventure nous illustre bien les dangers que l'on court tous à chaque jour sur les web der web. Mais surtout, les risques de ne pas avoir d'accès à Netflix. C'est pas humain, ça.
Le journal de Montréal. Criche, ben.
Contient de l'écrapaud.
Va être long avant que je m'habitue à celle-là.
Donc, oui, cette semaine, le journal de Montréal. Quelques petits commentaires. Là.
Hors contexte.
Hors contexte. Donc, je commence avec un commentaire de Le Facteur qui dit « Commentaire intelligent d'un individu très lettré ici ».
Ah, OK.
C'est bon, c'est comme un...
Point?
Ouais, point.
Ceci est une phrase.
Ceci est une phrase. C'était son commentaire. Commentaire de Désolé, qui dit...
Désolé.
Ouais. Avec ou sans maquillage, je m'en fous, en autant que ce soit sans bobette.
Voilà, c'est tout.
Voilà. On a ici Jocelyn Souverain qui revient, je crois.
Revient à la charge.
Ouais, qui dit « Merci, Marine,
un
d'exister. »
Un peu comme Montcalm sur les prix. Non, c'est correct.
Donc, il dit « Merci, Marine, d'exister quand les moutruches du système matriciel dorment au gaz, comme d'habitude. »
Il réutilise ses moutruches.
Ouais, hein? Il aime ça, les moutruches.
J'aime pas ça, les moutruches.
Je pense qu'il y en a un élevage.
Quelque part en Beauce.
Quelque part en Beauce. Ghislain, qui dit « Le Canada donne des chèques. » 4 petits points. Fait que je suis pas trop sûr si c'est comme une fin de phrase puis un point de suspension ensemble. Là.
Mais j'ai remarqué que c'était super populaire, ça, sérieux. Dans... Tout le monde fait ça dans les commentaires.
4 points?
4 points.
4 points.
Pas, ouais. Pas 3, là. L'ellipse plus...
Oui, je pense que ça va avec cette qualité-là de citoyen.
C'est comme un point de suspension allongé.
Faudrait voir si...
C'est un point d'orgue.
C'est quoi? joke de musique. Pour donc, nos 3 auditeurs.
Le Canada donne des chèques, du BS, des ordinateurs, des permis de conduire... aux immigrants. Comprenez que je ponctue comme il était ponctué. Tout ce que ça prend pour faire des bombes. Merci, Justin. Donc, j'avais un petit commentaire qui s'adressait là, à...
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
Un autre retour de Jean Néasser, grand penseur.
Ah ben oui.
Qui dit de toute façon, il ne reste pas grand-chose à faire exploser à Montréal. Tout tombe en ruine.
C'est... Ben, les rues, oui.
Payer que nos taxes.
Payer que nos taxes.
Comme David.
Oh! Voilà. Non, mais en fait, non, mais c'était pas Jeff, c'était un commentaire du journal de Montréal.
Il y a The Fat Cat qui dit « Maintenant, ils offrent 32 vierges s'ils se font exploser, mais rendus au paradis, surprise! Ils sont 32 hommes vierges!
Oh. » Ouais. Il n'y avait pas une affaire que... Lémi,
oui,
qui était
au paradis. Oui, je l'ai vu, celle-là.
Il n'y reste plus de vierges au paradis.
J'ai un genre de mime là, qui disait Lémi est arrivé au paradis, il n'y aurait plus de vierges.
C'est 32, il me semblait que c'était moins que ça. Est-ce que c'est rough l'inflation, par exemple?
C'est l'inflation des vierges au paradis. Mémoire sélective qui dit « Je suis presque en train de changer d'idée avec le pipeline. » excusez. « Je suis presque en train de changer d'idée avec le pipeline. » Je crois que nous devrions...
Une de mes aiguilles de VU.
Je crois que nous devrions le faire et qu'il se fourre de le cul, le leur... D'une manière ou d'une autre, va falloir vivre avec ce produit encore longtemps, aussi bien le prendre de notre que de les financer pour leur fuc.
Sacrément.
Croisade de Mongols débiles. D'une manière ou d'une autre, il n'y en aura plus de futur si ça continue.
Écoute, j'aimerais répondre à...
Mémoire sélective.
Merci. Hein?
La mémoire sélective, c'est au niveau de son alphabet, c'est ça?
Oui, il a oublié le E à la fin de prendre. Il a mis un F, ça fait prendre.
Prendre.
Ben, je pense qu'il s'est prendre une balle de fogé dans le cul.
On s'est beau, les gars de Pérus.
J'ai un botaniste qui dit « Mais nos islamistes ont une grande faille dans leur système. Le porc, nous devrions-nous pas l'exploiter, cette faille? » Moi, je l'imagine tellement, André, je sais pas, d'envoyer des petites bombardées avec des cochons, je sais pas.
Ah, oh, c'est le porc avec un C, OK.
Oh, oui, le porc avec un C, tu sais, comme...
Je m'en allais y répondre « Hein? »
grande première pour moi cette semaine. J'ai enfin réussi à sous-traiter un gag.
T'es rendu un lazy fucker.
Je suis rendu un lazy fucker level 3. Martin Michaud, qui nous a fait remarquer ce commentaire. La construction devrait être interdite aux femmes. Il y a des limites à vouloir jouer aux hommes. La même règle devrait s'appliquer aux femmes policières. Donc, en suivi de nos commentaires misogynes de la semaine passée, merci Martin, qui nous a comme taillé directement sur la page des commentaires.
Merci Martin, mais fais plus ça, faut qu'il travaille un peu dans le
Ah, les plaisirs coupables.
Il y avait un son de plaisir, clairement.
Non, mais que ce soit de se manger un toast au beurre de peanut couché dans son lit, ou de subtilement étendre la jambe pour déloger une BSTL. Ça, une BSTL, Dan, c'est une balls stuck to the leg. Tu peux t'en servir dans tes cours, si tu veux. Ça fait partie de ces petits comportements coquins dont personne n'ose parler, mais auxquels tout le monde aime s'adonner à l'occasion. Alors, c'est donc en caressant l'idée de coller malade à la job cette semaine pour écouter 4 filles et un jeans 2 en mangeant de la crème glacée napolitaine cette semaine que j'ai entendu l'appel de Divan Quest. L'épisode 17 devait être le retour des célèbres plaisirs coupables du gaming. Donc, voici donc Guilty Pleasures Part 2 de Guiltening.
T'as pas de thème?
Non, c'est ça.
Ah, oh, ok, excuse-moi.
Quel
build-up incroyable.
Ça aurait été cœur.
Ça serait des bons.
La bonne radio.
En fait, on fait un retour à toutes ces choses qui sont pas prévues dans les jeux vidéo, mais qu'on ne peut s'empêcher d'accomplir et de faire encore et encore. Puis les choses qu'on se rappelle à travers les jeux vidéo, puis qui sont devenues une nostalgie, mais qui n'étaient pas voulues de la part des concepteurs.
Mais comme quoi, Jean-François, comme quoi?
Mais comme ce premier plaisir coupable à Mario 64. Qui? Que jette la première pierre, celui qui n'est pas coupable de ce crime, n'a pas jeté le bébé pingouin en bas de la montagne à Mario 64.
Il aurait fallu jouer à Mario 64.
c'est normal de faire ça. C'est ton... T'es comme tabard. Va chier. Là!
Mais clairement, sa mère est beaucoup trop proche du bord pour pas s'attendre que ça arrive. T'sais. C'est quand même pas le premier qu'à faire.
Je sais pas, les pingouins ont combien d'enfants à reporter, là, mais elle est productive.
Puis c'est pour ça que c'est son père, c'est pas les pères qui couvrent les. Okay.
Ne regarde pas.
Autre plaisir coupable. Peut-être qu'il y a juste moi qui est coupable de ça. Puis je tiens à m'excuser à mon frère pour toutes ces années. Peut-être que depuis 27 ans, il vit dans des problèmes à s'accepter dans la société depuis ce temps-là. Mais de le convaincre en tant que deuxième joueur de Mario Bros 3, quand il joue Luigi, en fait, quand c'est son tour de jouer, parce que j'ai échoué dans ma jeunesse à un tableau, de refaire le tableau précédent. Si vous vous rappelez, il y avait un mini-jeu, un petit mini-game où on pouvait comme... Il y a des monstres qui descendent puis c'est le premier qui tue trois monstres, en fait.
Qui est, si je ne me trompe pas, le Mario Bros. Original, ouais. Finalement, là, qui n'est pas Super Mario Bros. Là.
C'est ça. Exact. Mais je m'excuse à mon frère, en fait, de l'avoir convaincu à chaque fois que c'était son tour de jouer, de refaire ce tableau-là parce qu'il n'était pas bon puis j'étais meilleur que lui. Pour gagner et que ce soit déjà mon tour de jouer parce que celui qui gagne, c'est son tour de
continuer.
C'est facile
de à quelqu'un que tu sais qui écoute pas le pod.
Mais il nous écoute.
Ah, fuck. Hey, salut.
Hey, imagine, hein, si je me fie à ton skill de tantôt, parce qu'on a quand même testé pour être sûr de dire la bonne chose, ça ne devait pas se rendre loin, c'était beau petit team-là.
Hein. On savait que j'ai 3 ans d'avance. Fait quand j'avais 6 ans, il y avait 3 ans. Tiens.
Oh, mais t'avais déjà t'assis dessus et à jouer d'abord.
Il était déjà plus grand. Donc, ben, shout-out à tous ceux qui ont fait ça, convaincu leur petit frère de refaire le tableau précédent pour pouvoir rejouer tout de suite.
Moi, j'étais un petit frère, by the way.
Est-ce que tu t'es fait faire le coup?
Oui, mais on se l'est renvoyé, mais oui. Oui.
OK, vous entendrez dans votre prochaine semaine. Toujours en restant dans l'univers de notre enfance et du fameux NES, qui n'a pas collé le zapper directement dans l'écran pour atteindre plus facilement les canards à Duck Hunt?
Biu, 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 biu.
Ou clink, 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 clink. C'est ça, c'était le rythme qu'il y a eu. J'ai pas soundboard, ok? Je fais comme je peux. J'adlime mes sound effects. Donc, qui ne l'a pas fait ici?
Ben, je peux pas lever ma main là.
On l'a tous fait et on l'a fait encore.
Je m'abstiens de répondre.
Ben oui.
Puis là, t'as un oncle qui était comme check, tu peux enligner une ampoule avec puis tu grippes, ça pogne tout le temps. Bravo, mon oncle.
Je sais pas ce qui est pire, hein, tu as collé dans la TV ou enligner une ampoule.
Ben, y en a un qui est quand même. Qui a des mérites scientifiques, mettons.
Mais là, qui demande un effort, faut que tu te lèves et t'ailles jusqu'à la TV.
Ouais, mais à cette époque-là, on était tous pas mal proches de la TV. T'sais. Pas comme aujourd'hui qu'on a des TV de 30 pieds.
Le fil du zapper a pas comme 36 pieds de long non plus.
C'est pour ça qu'on a des lunettes à ça.
Parle pour vous autres.
Si on vient plus moderne, plus proche d'aujourd'hui, mais pas tant. Puis peut-être que c'est juste un inside. Peut-être. Mais je nous ramène. Matt, dans le temps de Def Jam, Fight for New York City, où on avait tant de plaisir
à encastrer quelqu'un dans la table de poule.
Ou à lancer Sean Paul devant le métro.
Je te dirais que pour avoir parlé avec un de mes amis qui avait des grosses soirées de Def Jam aussi avec ses chums, là, c'était le plus grand plaisir qu'il avait de tabasser des rappeurs.
Mais c'est ça, c'est que aucun jugement, là, mais c'est pas pour tout le monde là, du hip-hop. Puis un qui est focusé strictement sur un label de disque de hip-hop, mais... Rendez-vous service. OK, le jeu gagne quand même en valeur, là, qui est moyennement dispendieux pour un jeu de cette époque-là, mais ma musique à mi-août, là, pis fucking joue. Okay, oui, c'est tellement le fun.
Le gameplay est décœurant, mais c'est solide. Quelqu'un qui aime le hip-hop peut jouer pour le hip-hop. Quelqu'un qui aime pas le hip-hop peut jouer pour tabasser des rappeurs.
Tu te crées, parce qu'en plus, tu sais, c'est basé sur un moteur de jeu de lutte. Fait que tu te montres le bonhomme le plus fucking metal possible pour tabasser des rappeurs. Fait que pis t'as une expérience complètement différente. Ça devient un roguelike de bâchage de rappeurs. Puis même, puis c'est intéressant de voir à quel point Sean DePaul est. Sean DePaul, oui. Sean parce qu'il est complètement capable de parler, là. C'est hallucinant, là. Même quand il fait ses quips, là, ses petits bouts de dialogue, là, avant les fêtes, là. Rien à comprendre, là. Il y a fuck all à comprendre. Voilà.
Et voilà, c'est ça pour Def Jam. un autre plaisir coupable, je pense que c'est une obligation. Ça vient de soi-même, ça doit être dans notre nature, ça doit être écrit dans nos gènes, en fait, de jouer à The Sims et de retirer la porte de la maison.
On n'a pas déjà parlé, ça.
On avait effectivement glissé un mot la dernière fois dans les premiers Guilty Pleasures.
On a parlé de l'échelle de piscine, c'est complètement différent.
Et voilà. Des chaises sur le bord du foyer.
Mais j'ai trouvé quelqu'un qui avait poussé ce vice-là beaucoup plus loin, en fait. Sur Reddit, j'ai trouvé quelqu'un qui exprimait, en fait, son propre plaisir coupable à The Sims. Et je vois
attention sur Reddit, quand les gens parlent de plaisir coupable, ça peut devenir rapidement notre safe for work.
Vous allez voir, c'est assez particulier. Et clairement, cette personne est devenue un maître dans les plaisirs coupables. En fait... Ce qu'il faisait, son plaisir à The Sims, c'était de créer un personnage qui était compulsivement freak du nettoyage. Okay? Donc, le personnage voulait tout le temps que tout soit propre. Ensuite, il mettait dans un environnement surréel, dans une petite maison surréelle, avec un banquet de mariage, avec de la nourriture à l'infini partout, et un hamster. Ensuite, il retirait la porte et... Il attendait et regardait cet homme free du nettoyage devenir fou du manque de propreté, de la bouffe qui se décomposait. Et éventuellement, le hamster mourait de faim. Et ensuite, la dépression, en plus de la folie, s'installait chez le personnage qui finissait par mourir déprimé et affamé parce que la nourriture était totalement absente de sa petite maison.
C'est terrible!
Mais c'est pas tout.
J'avais peur.
Parce qu'il prenait les cendres de ce personnage-là, il les mettait dans une urne et plaçait l'urne dans la maison, créait un second personnage identique et le plaçait dans la maison. Après 10 personnages à mourir fous et de faim dans cette maison-là, le dernier personnage, le 11e personnage avec qui il avait répété l'expérience, passait ses nuits à ne pas pouvoir dormir. Parce qu'on faisait des nuits blanches entourées des fantômes des 10 en mort précédemment dans la maison.
Ça va beaucoup trop loin.
À ça, je dis chapeau. Un autre plaisir coupable.
En plus, je pensais que c'était une belle chute, mais non, ouais. Ça continue.
Mais non, il m'en reste encore quelques-uns.
J'espère que ça va être pire.
Mais on m'a dit que c'était trop court la dernière fois, je me suis dit que j'allais en mettre plusieurs. Qui n'a pas joué à un jeu de stratégie en temps réel comme StarCraft, par exemple, et de se donner un 15 minutes sans attaque pour se monter une armée de la mort?
Ben oui.
Tout le monde l'a fait, parce que clairement, le fun, c'est pas la stratégie, le fun, c'est Zergrush. C'est dans l'écran avec des unités. Il y a un chiffre 200 dans le coin en haut, ça va être écrit 200 sur 200. Il y a certains jeux qui sont même des guilty pleasures en eux-mêmes, vers lesquels on va retourner sans cesse. C'est même des jeux qu'on se fait revendre encore et encore et encore. On les achète toujours.
Pas de quoi tu parles.
Puis on a tout le temps autant de plaisir, Danny, tu devrais savoir de quoi je parle. Qu'on pense à Pokémon ou à Harvest Moon. On s'entend que le jeu a très peu changé, la recette n'a pas changé, mais c'est quand même un jeu qui est super populaire. Mais il y a quelque chose dans ces jeux-là, il y a un petit je ne sais quoi qui fait qu'on y retourne toujours et on ne s'entend pas.
Mais je pensais que là, tu parles en fond des jeux qui sont des itérations dans la même maudite affaire. Là.
La même maudite affaire.
Ou des MMA. Là,
les MMA.
Même maudite affaire.
Shout-out à toute la gang de Thérèse Martin. Mais moi, je pensais vraiment au jeu que tu rachètes le même calice de jeux. Là. Parce que depuis hier, je suis comme j'ai quand même le goût de m'acheter une New 3DS pour pouvoir m'acheter Earthbound dessus. Pourquoi?
Tu viens de me donner l'expression MMORPG.
MMORPG.
Je suis beaucoup trop satisfait. Et non, ce n'est pas un MMO, c'est juste un RPG parce que c'est tout le temps la même mot.
C'est un MMORPG. C'est bon
MMORPG. Et j'aime ça.
Il y a quelque chose aussi, il y a un petit plaisir de quoi à propos d'un style de jeu très, très, très précis, très, très niche, mais qui a marqué tout le monde qui a à peu près notre âge. Je pense aux vieux jeux de ski ou de downhill de back in the days en notre jeunesse. Je pense à, par exemple, Ski Free sur PC ou...
avec le bonhomme.
Ouais,
le
ou sur ceux qui ont un petit peu joué avec Linux à Extreme Tux Racer où on avait le pingouin là, qui glissait sous sa bédaine là, dans la montagne.
Qui est un des rares jeux Linux qui a eu une... release physique.
Ah, pour vrai?
On va l'acheter sur les tablettes. Il y a une boîte. Tu peux avoir un Tux Racer en boîte.
Complete Inbox.
Ouais, CIB. CIB.
Je mets ça dans ma bucket list. donc, je sais pas ce qu'il y avait avec ces jeux-là, mais tout le monde a joué à ça. Tout le monde s'en rappelle. Il n'y a rien à faire là-dedans. Là. Tu descends jusqu'à temps que le Yeti te mange. Mais tout le monde... Mais tout le monde a un bon souvenir de ce jeu-là. Il n'y a pas personne qui est comme... C'est marrant. Non, tout le monde... Tout le monde s'en rappelle, puis il dit « Ah oh ouais, c'était cool! » Puis le mec, il y a des sites web, il s'est refait en flash le jeu, puis tu peux le trouver sur Internet, puis il y a du monde qui joue encore aujourd'hui.
Puis ce qui est drôle, c'est que comme il est fait en flash, c'est aussi rétro une deuxième fois.
Donc, une fois encore, je dis « Chapeau! » Je sais pas c'est qui a développé ça, mais « Chapeau! » Il y a même, pour terminer, puis vous pouvez pitch in là-dessus, les gars, pas que vous gênez d'habitude, mais il y a des jeux qui sont juste parfaits. Il y a des jeux qui... La recette, l'idée, le concept est juste parfait. On s'entendra jamais. Tous les éléments semblent travailler ensemble, de concert, pour faire que c'est une petite merveille, un petit bijou de gaming. Je pense par exemple à un jeu comme Peggle.
Mm-hmm. Ouais.
Tu peux pas ne pas aimer Peggle. Ne serait-ce que parce que quand tu finis un tableau, t'as Lynn à la joie qui blaste les speakers dans le tapis. Ça n'a aucun rapport. Il y a des licornes, il y a des arcs-en-ciel, il y a des hamsters. Mm-hmm. Qui ne peut pas aimer Peggle?
C'est quoi, toi? C'est un segment, c'est hamster? Ouais.
Je pense que c'est un désir, on va y acheter un hamster. Peggle?
J'essaie de me déplacer, m'éloigner des poulets, changer l'animal.
C'est avec Fox qui s'en vient. Qui est passé pour vous autres. Mais Peggle, ça a été un de mes add-ons préférés dans WoW parce qu'ils ont sorti un add-on de WoW de Peggle.
Pour vrai?
Puis ce qui était très drôle, c'est que tu pouvais l'activer là, quand tu voulais, mais tu pouvais aussi activer une option que dès que tu embarquais sur un flight path, il te partait une game de Peggle qui durait le temps exact du flight path.
Pour passer le temps.
Pour passer le temps pendant que tu voles.
Tu vois-tu ce que je veux en venir?
Je sais très bien où je veux en venir.
Quand tu joues un jeu dans ton jeu parce que ton jeu est pas assez divertissant, wake the fuck up, là! Gang de moutruches!
Reste que, pour moi, c'est un bon souvenir.
Il avait mis Bejeweled aussi, je pense.
Oui, il est sorti avant ou après, je sais plus trop, mais j'ai plus joué à Peggle.
Avec la collaboration très très proche entre PopCap Games et Blizzard, parce qu'entendons-nous, même combat dans le cas d'un MMO. Jeux pour jouer sur la balle ou MMORPG, même combat.
Je me demandais, mais vite en deux minutes, y a-tu des jeux qui vous viennent en tête qui sont comme Peggle, des jeux qui sont tellement parfaits, des petites gemmes qu'on va y retourner toujours puis qu'on s'entendra jamais?
Les jeux mobiles ont comme une propension à faire ça parce que c'est la seule façon que t'es d'en face à quelqu'un tout le temps, c'est de dire comme « Ah, j'ai deux minutes, il me semble que je jouerais. »
Ouais.
Fait que il me semble que tous les jeux qu'on a accrochés sur mobile ont un petit peu ça.
Ben, pour moi, ce petit jeu-là de plaisir coupable, de j'y reviens tout le temps, puis beaucoup trop souvent, c'est FTL. Là. Probablement que j'en parlais un moment donné, là, parce que c'est vraiment un de mes tops de jeux qui... Pour ceux qui connaissent pas ben vite, c'était un jeu qui se passe dans l'espace où ce que tu as géré là, un crew, puis bon, il se passe des affaires. Pour vrai, j'en reparlerai un moment donné parce que je pense qu'il y a un segment à faire là-dessus.
Mais, ouais, parce que clairement, ce que tu viens de dire, c'était pas efficace.
Clair. Mais FTL, pour moi, c'est mon petit jeu auquel je reviens beaucoup trop souvent. Puis tu fais, ouf, il est 10h, pourquoi me coucher tout de suite? Moi, je joue un petit peu FTL. Oh shit, il est 3h, je suis allé me coucher parce que je travaille demain. Puis. Tu sais, c'est pas très... C'est ça.
Mais je trouve ça intéressant parce que FTL, on parle des jeux mobiles, on parle de Peggle qui est un jeu mobile ou un jeu, tu sais, un jeu passe-temps entre le début de la fin d'un Flight Path à World of Warcraft. Je pense que c'est des jeux que c'est des pick-up and play, on peut les prendre, on peut les jouer rapidement, puis j'ai une expérience en 3 minutes, puis je peux le déposer et passer à autre chose.
Mais dans des jeux qui sont plus complexes, ça, par contre, tu sais, un jeu simple comme Worms, le premier Worms en PlayStation, vu que tu pouvais jouer justement en swap en manette, là, on jouait avec mon frère et mes deux cousins, là. Les heures, ça n'a pas de sens.
Puis c'est des jeux aussi que tout le monde aime, pas juste les gamers, pas juste les geeks. Tout le monde a déjà joué à Worms, tout le monde a des bons souvenirs, des petits verres de terre qui se tirent avec des bazookas.
Avec des petits wakios.
Je pense qu'il y a aussi l'attrait général de tout le monde.
Worms, un des jeux qu'on a beaucoup joué chez vous, Jeff.
Énormément.
Worms 2.
Fait que c'était les Guilty Pleasures de la semaine.
Ben merci, Jeff.
Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, 28 mars, et non pas 29 février. Je l'ai encore sur le cœur.
Bon, il vit dans le passé. Ouais.
T'as 4 ans pour t'en mettre.
Je vais commencer à aller mieux, genre l'année avant.
Alors, bienvenue à l'épisode 117 de Divan Quest.
Donc, 28 mars, je commence en 1859, où un certain Urbain Le Verrier, astronome, croit avoir observé une nouvelle planète qui aurait été situé entre Mercure et le Soleil. Son existence aurait expliqué des anomalies dans l'orbite de Mercure et la planète a été nommée Vulcain. Plus tard, un certain Monsieur Spock a nié l'existence de cette planète en disant « This is not the planet you are looking for. May the Force live long and prosper.
Alors, on aimerait s'excuser à tout le monde.
tu viens de partir une guerre.
I know. Justement, parlant de guerre, mon Dieu, quel segway. 1918, début de l'émeute de Québec en lien avec la conscription pendant la Première Guerre mondiale. Puis là, j'ai un petit segment de vraie histoire parce que c'est quand même intéressant. Donc, le 28 mars, Joseph Mercier, 23 ans, a été arrêté alors que des documents, dans le fond, d'exemption de la conscription. Donc, il est supposé de pouvoir être exempté, mais il l'arrête quand même. Il y a une foule de 2000 personnes qui vont se masser autour du poste de police.
S'amasser autour du poste de police?
Oui, c'est ça.
T'as un petit peu d'histoire, donc, c'est sérieux.
Il y a une foule de 2000 personnes autour du poste de police du quartier de Saint-Roch, à Québec. Bon, il y aura d'autres événements, d'autres mobilisations qui vont suivre. L'armée va même être envoyée dans les rues. Puis, il y aura même une mitraillette fixe qui va être utilisée contre des manifestants qui causeront même 4 morts. Puis l'enquête a prouvé par la suite que c'était vraiment même pas des gens qui manifestaient, c'est juste des gens qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc une belle page d'histoire pour notre beau pays.
Comme quoi c'est dangereux de se masser au mauvais endroit.
Ce qui arrive à Québec reste à Québec.
Côté technologie, en 1905, Cornelius Herrett de Rosemont, en Pennsylvanie, ou de Rosemont, j'imagine, a reçu un brevet pour l'art de la transmission d'intelligence qui va amener éventuellement à un outil très moderne, j'ai nommé le fax. Bon, je sais que t'es pas directement un fax, là, c'était un fax modem, là, mais avouez que ça nous rend quand même nostalgique, ce petit son-là.
Ah oui, je m'ennuie tellement du temps parce que ça prenait une ligne de téléphone puis ça prenait 2 minutes d'enlauder une pique de fille tout nue. C'était...
Une demi-pique, c'est tout ce que t'avais besoin, Matt, dans ça.
Ça commence, puis ça load. Il y a des bouses. Puis ça continue à loader. Hop, une petite surprise.
Là, ta mère descend. Matt, j'ai besoin du téléphone.
2 minutes.
Donc, en 1935, Robert Goddard a lancé une fusée équipée de contrôle gyroscopique près de Roswell au Nouveau-Mexique. La fusée aurait atteint une altitude de 4800 pieds, a volé une distance de 13000 pieds à une vitesse de 885 km à l'heure. Elle aurait fini sa course en percutant un objet volant non identifié et aurait causé des milliers de dollars de dommages à une soucoupe volante.
Sacrément.
Tout était vrai jusqu'à la soucoupe volante.
Oh.
1979, accident nucléaire à Three Mile Island en Pennsylvanie. Aucun mort ni blessé n'a été rapporté, mais tous les habitants de cette région qui fêtent aujourd'hui leur 37e anniversaire de naissance ont une jolie couverte, une jolie aura verte fluo la nuit. Chapitre des naissances, en 1960, le romancier franco-belge Éric Emmanuel Schmitt, qui a écrit entre autres le roman La part de l'autre. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une biographie romancée d'Adolf Hitler où on suit un parallèle, une biographie qui appelle Uchronique, un nouveau mot que j'ai appris cette semaine.
Oh.
Ça veut dire qu'on réimagine l'histoire à partir d'une modification d'un événement passé. Donc, une biographie uchronique de Adolf H., qui est le personnage qui aurait pu devenir Hitler s'il avait été accepté à l'École des beaux-arts de Vienne. Alors, on lui souhaite une bonne fête, puis en même temps, on lui propose un nouveau sujet pour un prochain livre, Le toupette de l'autre, qui raconterait la vie de Donald T., si à un moment donné, en 2015, il n'y a pas une personne qui a dit « Hey, on va le laisser se présenter à la présidence, ça va être drôle. » En 1970, Vince Vaughn, un auteur intellectuel qui est connu pour ses prestations dans des petits bijoux hein, de profondeur comme Dodgeball ou Zoolander.
Je pense vraiment qu'il y a un autre Vince Vaughn qui a commencé. Hein?
1986, une certaine Stéphanie Joanne Angelina Germanotta, aussi connue sous le nom de Lady Gaga, une auteure, compositeur, interprète engagée qui a écrit des hymnes, ou comme j'avais écrit à l'origine, là, hymen, hashtag typo freudienne.
Chris, elle aurait écrit un hymne à l'hymen, puis personne n'aurait été surpris.
Voilà. Donc, elle a écrit des hymnes à l'implication citoyenne, comme les suivants.
Fait que le pod ne sera pas disponible sur YouTube à cause de...
On parle de profondeur dans les textes. Puis selon Wikipédia, le prénom du jour serait Gontran. Donc, un message à tous ceux qui auraient un enfant aujourd'hui, c'est la suggestion de Divan Quest.
Fait que contrairement à ce que mon thème pourrait vous faire penser, on va essayer de ralentir la cadence de ce show-là parce que c'est un tout petit peu déjanté présentement.
Fait que
aujourd'hui, je vais vous parler de Retro Game Challenge sur Nintendo DS, publié en 2007 par Xseed en Amérique. Il s'agit d'une version américanisée du jeu Game Center CX Arino no Chusenju de Namco.
Ah ben oui.
Ben oui. Non, ben c'est rare que je me donne la peine de donner le titre en japonais, mais il est important dans ce cas-ci. Parce qu'à l'origine, le jeu est basé sur une émission de TV japonaise qui parle de rétro gaming, du nom de Game Center CX. On pourrait parler de Game Center CX, mais ce serait probablement un segment en soi. Il faudrait prendre plus que l'espace d'un segment pour en parler. Fait que si vous êtes curieux, puis vous pouvez aller faire un tour sur le site qui est gamingcx.com, puis les épisodes sont disponibles à écouter sous-titrés, parce qu'évidemment, c'est un show en japonais. Fait que maintenant que le minimum a été fait pour apaiser les fans de Game Center CX, je peux par contre vous dire en fait qu'il n'y a absolument aucune connaissance de Game Center CX qui est nécessaire pour apprécier Retro Game Challenge. En grande partie à cause de l'excellent travail de localisation qui a été fait. Fait que c'est quoi, Retro Game CX? Hein? C'est une bonne question. Hein? Merci de l'avoir posé, les gars.
Retro Game Challenge.
C'est ça que j'ai dit? Ah, j'ai Game Center CX?
Ouais.
C'est pour ça qu'on m'a posé la question. On sait que t'es tout mêlé de toute façon.
Fait que c'est quoi, Retro Game Challenge?
Qu'est-ce?
Mais qu'est-ce? C'est une collection, en fait, de faux jeux de NES. Certains des rip-offs assez directs de classiques, puis d'autres des variations quand même intéressantes. Puis le tout est comme dans un packaging de... En fait, qui fait un peu penser, en rétrospect, à NES Remix, pour ceux qui ont joué à cette série-là sur la Wii U. Si vous n'avez pas joué, ben c'est juste que l'idée, c'est qu'on vous présente des jeux que vous n'avez pas forcément à jouer au complet, mais que vous avez des séries des challenges à faire dans ces jeux-là.
Il n'y a pas sur le 3DS aussi?
Oui, c'est vrai.
C'est pas le même jeu, je pense, exactement, non, mais c'est le même un peu concept.
Exact. Puis il y a quand même un genre de narrative alentour de ce jeu-là, mais au sens large. L'histoire, justement, c'est qu'on a été capturé par Arino, puis il nous renvoie dans le temps pour jouer à des jeux vidéo avec son jeune lui-même. Fait qu'à partir de là, on est introduit à un jeu rétro un à la fois, Puis on doit battre 4 défis pour chaque jeu. Ils sont présentés de façon chronologique, d'ailleurs. Chaque jeu représente comme une date entre 84 et 89, qui est la sortie d'un des jeux dans cet univers fictif-là. Les défis sont variés, mais habituellement simples. Souvent, là, ça va être juste comme « Fais tant de points, rends-toi tel tableau. » C'est juste pour te faire jouer. Puis il y en a des un peu plus weird, là, mais souvent, c'est juste une raison de te faire jouer sans avoir à finir le jeu au complet. Bref, parce qu'une fois qu'on a fini les 4 défis, quand on est introduit au prochain jeu, on obtient le free play pour pouvoir jouer librement au jeu au complet.
À tous les jeux.
À tous les jeux qu'il y a dedans, dans Retro Game Channel. Fait qu'il y a beaucoup d'efforts justement qui est mis dans la présentation pour nous replonger dans ce feeling-là d'être à cette époque-là. Puis c'est une des maudites belles, des beaux accomplissements de ce jeu-là. Évidemment, ça implique que vous ayez été un petit peu au courant de la fin des années 80 et début des années 90. Donc cette époque pré-internet. Fait que premièrement, le jeu est présenté, c'est sur le DS. Fait que l'écran du haut nous représente l'écran de la télé. Puis même quand elle est éteinte, là, quand on est entre deux jeux, c'est une TV éteinte qui est sur l'écran du haut. Puis tandis que sur l'écran du bas, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est les deux jeunes assis par terre en avant de la télé, devant une espèce de console qui a l'air d'un Famicom, là, d'un NES japonais, mais un petit peu étiré. Ils sont assis tout simplement devant, par terre. Puis on peut toujours aller consulter le manuel du jeu qu'on est en train de jouer. Fait que si on va dans l'écran du bas, parce qu'on peut toujours switcher quand on veut, dans l'écran du bas, on peut aller accéder à la bibliothèque, puis on a les manuels des jeux, qui ont des manuels, bon, brefs, mais qui ont le format des manuels japonais de Nintendo, parce que ça fit bien sur un écran, vu que c'est plus large que haut. Puis on a justement les instructions, puis un petit peu de mauvaise traduction, puis de stock vaguement pertinent, puis de conseils génériques que tout le monde se sac. Fait qu'il y a vraiment comme un hommage à ce genre de manuel ridicule-là.
Tu le conseilles d'arrêter de jouer de temps en temps et d'aller prendre une marche.
C'est ça. D'être son responsable.
Là, c'est de faire de l'épilepsie. Dehors.
Puis, mais il y a même des jeux où c'est nécessaire de lire le manuel pour bien comprendre. Vient à l'esprit, il y a un jeu de course dedans. Puis le système de drift qui donne des power-ups, etc., est expliqué dans le manuel. Puis tu peux rusher si tu ne vas pas le lire. Les défis t'invitent à aller le faire, là, donc ils te pointent dans la bonne direction. Mais ça te prend le manuel pour bien comprendre ça.
RFTM, comme ils disent.
RTFM.
Ou RTFM.
Ouais. RTFM. Puis c'est ça, il y a aussi les magazines. Le jeu a des copies de magazines fictifs, mais qui sont un hommage au Game Fan Magazine. Non, pas de magazine comme tu penses, Danny.
Ouais. Non.
Pas de découverte. Non, ça, le magazine s'appelle Game Fan, comme un magazine a déjà porté ce nom-là à l'époque. Puis dans le magazine, on trouve des cheats pour les jeux partagés par des faux développeurs eux-mêmes.
C'est excellent.
Puis ça aussi, évidemment, ça peut être, c'est nécessaire pour certains des défis.
C'est juste des extraits ou c'est des magazines? Il y a comme des pubs genre dans le style des vieilles pubs dans
Nintendo
Power.
Non, il y a vraiment des pages de pubs, mais il y a vraiment comme des segments genre tel développeur qui a travaillé sur tel jeu est en train de travailler sur un nouveau jeu. Puis là, c'est comme rester à l'affût, ça va être vraiment cool. T'sais. Puis là, vu que tu traverses entre 84 et 89,
là, tu joues au jeu.
Exact. Fait que t'as des previews de jeu. C'est excellent. Fois, tu vois des screenshots d'avance. Puis là, c'est comme le jeu s'en vient. Puis
C'est vraiment poussé à la nostalgie à un solide niveau.
Ben ça, puis les dialogues entre les deux personnages. Essaye beaucoup, en fait c'est surtout l'autre jeune qui parle, mais il essaye beaucoup de pousser cette discussion de cours d'école-là que les jeunes avaient. T'sais. Il est en train de parler de « Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait un secret dans tel jeu pour faire telle affaire, mais il n'y a pas de cas de nous le montrer, là, puis je suis pas sûr que c'est vrai. » Puis il y a vraiment comme une espèce de... Tu vois l'engouement de ce jeune-là à cette époque-là pour les jeux qui s'en viennent.
Je me répète tellement ces conversations-là.
On a déjà parlé sur le pod même.
En plus.
Mais c'est ça, puis c'est tellement cool, tu sais, puis... aussi, tu vois, il y a une compagnie qui s'appelle... t'as comme deux compagnies majeures, t'as Tomato et t'as Gears, qui sont des compagnies qui fabriquent des jeux dans le monde fictif. Mais il y a des analogies à faire avec des compagnies réelles selon le type de jeux qui sortent. Puis tu vois un peu aussi l'évolution de certains développeurs, puis les choix qu'ils font, etc. C'est quand même un petit peu en méta-narrative de ce qui se passe. Tu vois quand même le développement de ces compagnies-là. Fait que c'est super intéressant.
T'as-tu un semi-Kojima qui...
Non, ça va pas jusque-là. Il n'y a pas de jeu si complexe. Mais on voit par contre... mettons la différence entre des jeux en 84, 85, puis en 89. Ouais. Fait que justement, je vais prendre le temps un peu de vous parler de l'étendue de la jeuception, c'est-à-dire les jeux qu'il y a dans le jeu.
Et là, j'ai plus mon drop d'Inception de la semaine passée.
Je suis sûr qu'il se l'avait encore. Aïe. Opportunité manquée.
Et voilà.
Donc, le jeu commence, en fait, il nous fait commencer avec Cosmic Gate, qui est publié par Tomato en 84.
Tomato.
C'est Galaga. Carrément. Il y a des variantes, évidemment, sur le gameplay, mais ça se joue. Ça a le look de Galaga. Ça se joue de même.
Comme dans le thème de GF.
Hein? Pas Galaga 98, excusez, de GF. Voilà. On commence avec ce jeu-là. C'est assez by the book. Ça nous introduit bien au concept, puis etc. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle Robot Ninja Aggleman. Bref, Aggleman. Par une compagnie qui s'appelle Gears en 85. Ça ressemble beaucoup, si vous avez vu des cassettes pirates multijoux au Nintendo, c'est un petit ninja tout petit qui se déplace entre trois plateformes dans l'écran. T'as comme tout le temps comme trois planchers, puis tu peux sauter, puis il est comme rouge, là. Puis il y a comme trois jeux de cette série-là. Mais en tout cas, bref, ça ressemble beaucoup à ça. Beaucoup plus poli, parce qu'il enlève beaucoup des défauts de ces jeux rétro-là en les refaisant, en leur rendant hommage, si on veut. Puis à partir de lui, on se rend compte qu'il commence à avoir une profondeur qui nous force à explorer avec les challenges. Puis, mais c'est un des premiers bons jeux, parce que tu commences juste avec le Cosmic Gate, tu fais comme, bon, OK, c'est by the number, là. J'ai l'impression de jouer à Galaga, puis bonne journée. Puis t'arrives avec Aggleman, puis c'est, OK, c'est cool, c'est cool. Puis la musique est rudimentaire, mais elle rend service à l'époque au jeu. Après ça, t'arrives à Rally King, ce qui est un petit peu désolant. C'est un jeu de char calissement ordinaire, là. C'est un petit peu c'est loin d'être pourri là, mais on est habitué à des beaucoup meilleurs jeux de char à cette époque là, fait que c'est un petit peu un passage obligé, mettons. Après ça, on arrive à Star Prince, encore de Tomato en 86, mais là on évolue la formule du shmup là. Là on a des boss, puis on a beaucoup plus de complexité dans le jeu. On voit que les années avancent sur cette plateforme là. Ça file quasiment comme un jeu de TurboGrafx 16 là. Genre, ils poussent le 8 bits pas mal plus loin. En 86, on revient avec Gears avec Aggleman 2 qui élabore encore plus le jeu, mais qui reste quand même proche de ses racines. Après ça, on a Rally King SP, que je trouve que c'est une super belle chose qu'ils ont faite. Ça concerne plus le Japon que nous ici, mais au Japon, il y a eu beaucoup de jeux au Famicom, donc que c'était des jeux qui avaient remplacé les sprites pour faire des jeux promotionnels. Fait qu'il y avait beaucoup de ça là-bas, on n'a pas vraiment eu le droit à ça, mais c'est ce qui arrive avec Rally King SP, qui est un Rally King retémé pour une compagnie de ramen avec la mascotte. puis comme tout le temps, genre c'est écrit genre « Cup of Chicken Noodle », puis il y a le logo de Game Fan Magazine parce qu'il participe aussi. Fait que là, ça tie-in l'univers. Mais fuck, c'est Rally King encore. Oh, fait ouais. Que ça fait chier un peu parce que c'est pas mal le même jeu. Ensuite, on arrive à un des jeux les plus surprenants. En fait, il en reste deux. Puis les deux derniers sont vraiment exceptionnels. Quand tu arrives à Gadia Quest, et non pas Guardia Quest, mais Gadia Quest. Parce que je l'ai pas noté là, mais il y a beaucoup de English volontairement dans les jeux, d'anglais mal traduit ouais. Pour bien reproduire le feeling de l'époque. Fait que quand on arrive à Gadia Quest, ben c'est un jeu à la Dragon Quest. C'est un RPG 8-bit relativement fleshed out, avec des variantes qui sont intéressantes. On contrôle trois personnages à la fois, donc ça rappelle un petit peu Dragon Quest 2, pour ceux qui connaissent la série. Puis, on a aussi une mécanique qui nous permet de faire des pactes avec les monstres. Ce qui fait qu'on peut comme engager un ennemi pour qu'il se batte avec nous autres. Puis, juste pour donner une idée, là, la plupart des jeux, les défis, t'es passé en une vingtaine de minutes. Puis, t'es prêt à passer au prochain jeu. Pour faire les défis de Gadia Quest, c'est un RPG. Hein. Ça te prend une bonne heure ou deux passer les défis. Fait que ça ralentit la cadence du jeu au maximum.
Mais t'as le feel aussi du type de jeu. Là.
Mais holy shit, c'est un bon petit RPG 8-bit, quand même bien construit. Puis une fois que t'as fini les défis, ben, il te reste quand même un autre bon gros donjon à faire après. Fait que tu peux prolonger l'expérience. Et le dernier jeu, qui est de Aggleman 3, donc on continue la série avec le ninja, par Gears en 89. Mais là, on voit ici justement le genre d'effort des compagnies d'essayer de se réinventer. Fait que là, il n'a plus aucun rapport avec les deux autres bonhommes. C'est présenté avec quasiment des cutscenes à la Ninja Gaiden, mais qui sont faites avec le look du jeu, mais qui ont comme beaucoup d'histoires avec des sidekicks qui sont comme des mascottes qui ont clairement l'air faites pour vendre des toutous. Là. Ouais. toute cette idée-là est dedans. Mais le jeu est écœurant. Écoute, ce jeu-là se présentait à l'époque 8-bit. C'est un chef-d'œuvre instantané. Fait que même juste en rétrospective, là-dedans, ça vaut à peine de jouer quasiment juste pour se rendre à ce jeu-là, malgré qu'il est très court. Un petit peu, c'est divisé par tableau. Il y a juste trois tableaux dedans.
Mais il est plus court, mais si tu débarres le mode, t'as un jeu plus complet.
Le jeu complet, il y a que trois tableaux.
OK.
Mais chaque tableau, c'est un petit peu Metroidvania. Il y a de l'exploration. Il faut ramasser des objets dans l'ordre pour pouvoir le compléter. Là. Fait qu'on a vraiment une expérience énorme. Le jeu est beau. Puis un des détails qui est vraiment cool aussi, c'est que la musique du premier tableau, c'est un remix vraiment... ça coche du thème du premier Aggleman.
Wow.
Fait, ils ont vraiment comme construit un univers fictif qui est le fun à découvrir, en plus de tout ce qu'il nous rappelle. Fait que ça a des, c'est ça rappelle, je dirais quelque part entre Metroid et Shinobi, mettons. C'est une bonne façon, je pense, de le décrire. Fait que tout ça ensemble, bref, ça fait un package qu'il y a, beaucoup, beaucoup de valeur dans ce jeu-là. La narrative est sympathique, les défis nous donnent une raison de continuer à jouer, puis le format nous force à jouer un petit peu à des jeux qui nous intéresseraient peut-être moins, puis à découvrir des genres qu'on est peut-être moins familiers. Je disais, il y avait une méta-narrative au niveau des développeurs, évidemment, des entrevues qu'on voit dans les magazines, oui. Mais il y a aussi une plus petite méta-narrative au sujet du méchant qui nous envoie dans le passé pour jouer avec lui-même, où est-ce qu'on a un enfant solitaire qui cherche un ami pour jouer.
Ouais.
Fait que, il y a vraiment comme quelque chose de sympathique à tout ça. Fait que, bref, c'est charmant dans son ensemble, au complet. Puis, quelque chose qui malheureusement nous a échappé ici, c'est qu'il y a une suite. Qui s'appelle évidemment Game Center CX2, hein? Parce que le jeu a vraiment été un succès monstre au Japon. On l'a pas eu ici, mais évidemment, il y a des fans qui ont fait le travail. Fait que c'est possible d'y jouer sur émulateur ou même de se procurer une reproduction si vous voulez jouer avec une vraie cassette sur votre DS. Les fans s'entendent pour dire par contre qu'il n'y a aucun des jeux de la suite qui est vraiment à la hauteur de Eggman 3, comme le jeu par lui-même. Là. Mais il n'y en a aucun qui est aussi faible que Rally King, donc à quelque part, on gagne.
Point positif.
Puis il y a même un moment où est-ce qu'on traverse encore de 84. Si je me trompe pas, je pense que c'est 84 encore, jusqu'à 92. Ce qui fait qu'on arrive, il y a un jeu qui met le pied dans le 16 bits.
OK.
Fait qu'on voit même une autre plateforme arriver. Puis c'est un petit jeu d'ailleurs que j'ai pas essayé sur émulateur, je veux vraiment pouvoir l'essayer sur la plateforme. Puis c'est une espèce de Mario World, mais avec un espèce de petit démon. Fait que c'est une espèce de Ghost and Goblins Mario World qui a l'air quand même cool. Puis. Fait que c'est ça, fait qu'on traverse dans le 16 bits, puis il y a plus de jeux bonus qu'on peut débarrer, incluant des jeux de Game Boy, puis des remixes des jeux du premier là-dedans. Fait que c'est pas très surprenant, vu le côté rétro du jeu, que c'est un jeu que les collectionneurs aiment beaucoup. Donc c'est un des rares jeux de DS qui a aussi bien maintenu sa valeur, même en étant pas si vieux que ça.
Mais est-ce que ça se pourrait que. Puis là, je fais des hypothèses, là, qui a été comme moyennement bien vendu aussi à l'époque, fait qu'il est plus rare maintenant que d'autres.
Je pense surtout que je me rappelle quand moi je l'ai acheté à l'époque, ça a été difficile. D'en trouver. Fait que je pense pas qu'il était juste peu vendu, il était peu distribué. Je pense que le nombre de copies était très très restreint. Fait que ouais, c'est pas qu'il y a pas une bonne réception, c'est qu'il y en a juste pas.
C'est n'importe quoi, là. Ça s'achète pas, là. Tu regardes, mettons, live là sur eBay, là.
Ouais, mais...
Oui, je sais, mais tu sais, mettons, ouais. Je veux me le pogner, moi, là, aujourd'hui, là. Mm-hmm.
Bref, Price Charting l'évalue à 45 US.
Quand même.
Loose ou complete?
Complete.
OK.
Price Charting l'évalue à 45 US, complete. Puis moi, je me rappelle, en fait, je me rappelle pas, je peux regarder sa boîte, j'ai encore le sticker, j'ai payé 35 Canadiens quand c'est sorti.
Ouais, fait qu'il a pris de la valeur.
Il a pris de la valeur, si on veut le voir comme ça, effectivement. C'est plus l'inflation que d'autres choses rendues là. mais c'est ça, fait que c'est tristement un jeu un peu difficile à obtenir, mais c'est que du bonbon pour les fans de rétro. Voilà.
Mais je me demande, tu t'en joues sur la DS, puis la DS, on s'entend qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'ont. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un attrait pour quelqu'un qui a pas vécu les années 80 de jouer à ce jeu-là?
Ben, il y a un gros buzz pour le rétro, puis je pense que ce jeu-là est sorti un petit peu comme avant ça. C'était comme un... Tu sais, je comprends pourquoi il est sorti au Japon à cause du TV show puis du buzz que ça générait. Ici, ça a atteint un très, très petit groupe de joueurs maniaques. Fait que oui, je pense qu'il y a un attrait aujourd'hui parce que le rétro est ce qu'il est maintenant.
Ouais.
Ouais. Mais ouais. C'est sûr que l'intérêt est beaucoup plus grand pour ceux qui ont connu l'époque. Là. Parce que juste l'idée des discussions de cours d'école, des spéculations... Les magazines là, sont vraiment pleins de charme. Puis il y a un point que j'ai pas relevé, là. Mais pour ceux qui ont vraiment lu des magazines dans le temps, si vous avez lu EGM, Way Back in the Day, il y avait un éditeur qui s'appelait Dan Shu, H-S-U, qui avait une chronique, si je ne me trompe pas, qui s'appelait genre When the Shoe Drops. Mais il y a un éditeur dans GameFan, dans le jeu, qui s'appelle Sock, à place de Shu. Puis la face ressemble, puis j'ai lu qu'il y avait eu l'autorisation pour le parodier dans le jeu.
De la part de Dan Shu.
Exact.
Ah, c'est nice.
Puis c'est des choses qui sont spécifiques à la version américaine. Fait qu'il y a vraiment un amour là, du matériel source. Ouais. Là, qui était
ben, ça paraît, là. T'en parles, puis ça paraît que. C'est ça.
Ils veulent que ça vienne chercher.
Tu sais, c'est quelque chose qui aurait pu, qui pourrait continuer. Là. Ils pourraient en refaire un qui visite l'époque SNES sur, genre, sur le 3DS, mettons.
Puis clairement, ben, c'est dans le fond, ce jeu-là a été construit parce qu'ils pouvaient pas avoir les vrais jeux pour le faire.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'à quelque part, NES Remix, c'est l'enfant direct de cette formule-là. Ouais, parce qu'il te fait faire des challenges mur à mur sur des jeux de Nintendo. Fait que c'est vraiment juste leur façon d'adapter cette formule-là. Là.
Mais un jeu qui a l'air vraiment intéressant, pour vrai, je veux me le trouver, m'emmener.
Ben, je te le conseille.
Réflexion. Sur la semaine. Eh ben, j'aurais essayé. J'en demandais pas gros pourtant. 2 semaines. le temps de deux enregistrements d'Ivan Quest. Juste un petit deux semaines sans que le monde fasse d'hostie niaiserie. Deux semaines sans que d'anciens ministres soient arrêtés pour corruption. Ou deux semaines sans que le grand blond avec un toupet racing tienne des propos racistes ou haineux dans un dans un discours pour l'investiture républicaine.
Un toupet racing, j'aime
oui,
ça.
Oui, c'est un thème récurrent ce soir.
quand même.
Deux semaines sans que des illuminés décident de placer des bombes dans une station de métro bruxelloise pour nous apporter Tintin et les djihadistes. La machine est bien huilée maintenant. On sort les hashtags, on change nos photos de profil, on ajoute un filtre aux couleurs noir, jaune et rouge. Nos dirigeants déclarent leur support aux victimes. Les caricaturistes échangent la satire pour l'hommage. Et même Facebook se met en branle pour permettre aux survivants de rassurer leurs proches qui habitent outre-mer. Les médias, qui, il y a quelques mois, ont pris une pause devant l'ampleur du drame parisien, ont le 22 mars traité les événements comme ils traitent l'annonce d'un tremblement de terre ou d'un ouragan. On en fait des gros titres, peut-être même un envoyé spécial. Mais 48 heures plus tard, on en revient aux coupures du gouvernement Couillard ou à Mika, qui chantera avec les participants de La Voix. Cette semaine, comme Mathieu Charlebois, dans son blog sur l'actualité.com, je me suis interrogé sur la signification de l'anesthésie populaire face au terrorisme d'aujourd'hui. Est-ce que les... Je viens de faire ma page. Est-ce que les terroristes ont gagné parce que la peur fait partie de nos vies? Ou est-ce qu'ils ont perdu parce que la peur a été remplacée par une sorte de chorégraphie mécanique? Je vais laisser cette partie-là de la réflexion aux anthropologues et aux criminologues qui ont beaucoup plus à dire sur le sujet. Mais je conserve l'autre partie de la réflexion parce que, comme beaucoup de gens, en apprenant la nouvelle des attentats, je me suis demandé quand est-ce que cette période violente-là de notre histoire allait prendre fin. Je me suis dit que c'était assez. Puis je me suis posé la question, est-ce que les groupes islamistes radicaux sont réellement plus nombreux ou plus actifs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment plus d'attentats terroristes aujourd'hui que dans les décennies passées? Donc, je me suis tourné vers les internets pour assouvir ma curiosité. Donc, selon la base de données RAND sur le terrorisme, c'est une base de données qui tient compte de tous les attentats terroristes, donc des actes violents commis pour instiller la peur dans un but politique, qui ont été commis dans le monde entre 1971 et 2009. Et le constat est clair, la réponse est non. Allah n'attire donc pas plus d'hurluberlus qu'auparavant. En fait, selon la base de données...
Sa page Facebook n'est pas plus populaire?
Non, pas plus populaire, malheureusement. J'essaye, mais... En fait, selon la base de données, les années prospères pour les fabricants d'engrais et de nitroglycérine ont plutôt été les années 70 et 80. Dans les mêmes années que Acme, semble-t-il. d'où le célèbre dicton hashtag je suis coyote. Ou encore la fameuse phrase en l'honneur du poulet géant des Looney Tunes qui se chicane avec le chien, donc Monsieur Foghorn J. Leghorn, hashtag je suis coq.
Voilà. Mais... Ça en blague aussi.
Pour en empêcher. Mais si on se le rappelle, les années 70 et 80 ont effectivement été des années extrêmement mouvementées en termes d'activités terroristes. On n'a qu'à penser aux attentats perpétués lors des Olympiques de Munich en 1972 par le groupe Black September. Ou encore chez nous, pour conserver le thème des mois d'automne, la crise d'octobre, alors que l'FLQ kidnappait le ministre Pierre Laporte et plaçait des bombes à la Bourse de Montréal. Mais que dire de cette semaine, alors que le mouvement Encore décembre a semé la terreur au Québec en déclenchant une tempête de neige et de verglas un 23 mars.
Nous ne négocions pas avec les terroristes.
Les groupes extrémistes sont donc pas réellement plus actifs aujourd'hui, mais les réseaux sociaux et les plateformes publiques en ligne comme YouTube les offrent une tribune qui n'était pas disponible il y a 20 ans. Tout comme les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles ne sont pas plus communes aujourd'hui, il s'agit plutôt des canaux d'information qui sont plus efficaces et plus nombreux.
Mais méchant bon point, là. Mm-hmm. Tu repenses, mettons, octobre, là, si on remonte au Québec, pour que le manifeste de FLQ soit lu, il a fallu qu'il fasse comme des méchants gestes. Là,
Et il aurait droppé sur Facebook.
That's it.
Mais une fois rassuré, quant à la fréquence des attentats, la question logique vers laquelle ma réflexion s'est portée, c'est évidemment la suivante. Qu'est-ce que je peux y faire? Comment est-ce que moi, je peux faire ma part dans tout ça? Donc, immédiatement, je me suis souvenu de notre soirée du 14 novembre, Matt. Alors qu'on a assisté à l'enregistrement de l'émission « La soirée est encore jeune », le lendemain des attentats au Bataclan. Je me suis souvenu des mots de Jean-Philippe Autier.
C'est un drôle de métier que celui qu'on fait faire rire, faire réfléchir, amuser mais informer. Et dans une petite semaine où la nouvelle, c'est un déversement d'eau usée, ça gère bien. Mais aujourd'hui, on s'est posé la question « qu'est-ce qu'on fait? » Qu'est-ce qu'on fait dans ces journées-là? Et la semaine dernière, on parlait d'une citation latine qui avait été installée sur le devant d'un théâtre parisien qui disait « Castigat ridendo mores ». On en parlait avec Michel Dumont. Et ça veut dire « on peut corriger les mots de la société par le rire ».
Donc « castigat ridendo mores. Les mœurs se corrigent par le rire. C'est un mandat que, sans être des humoristes hors pair, on peut, je crois, affirmer remplir ici à Divan Quest. C'est aussi un mandat que le YouTuber Humza Arshad, alias Badman, a choisi. Humza, c'est un Britannique d'origine pakistanaise qui connaît un succès exceptionnel sur sa chaîne YouTube avec ses vidéos humoristiques qui dénoncent la radicalisation en se moquant de l'islam sans tabou. Humza, il fait aussi le tour des écoles secondaires britanniques pour s'adresser directement aux jeunes, vient partager son message de paix et de tolérance dans le but de combattre les stratégies d'enrôlement en ligne auprès des jeunes qui est utilisé par les groupes extrémistes. Puis je crois profondément que c'est ici qu'on peut prendre part au combat contre la radicalisation. Ça nous revient à nous, en tant que société, d'accepter nos différences puis de prouver à ceux qui se sentent à l'écart, aux âmes perdues, aux jeunes délinquants et à tous ceux qui sont la cible de discrimination raciale ou religieuse qu'il y a une place pour eux dans notre société. Donc, que ce soit à travers l'humour, le rire ou encore une réflexion sur la semaine, dans le fond, ce que les jeunes ont besoin, peu importe leurs origines ou leurs croyances, c'est un bon vieux divan brun puis une coupe de chum pour passer une belle soirée.
Non, mais...
C'est à toi, Eden.
Je sais.
Je m'excuse.
Non, mais c'est correct. J'aime la finale avec le divan brun. Moi, ça me rejoint.
J'ai aimé aussi la petite pointe au slacktivism. Ouais. L'acte de faire de l'activisme en changeant sa photo Facebook.
Ouais.
Voilà.
Donc, on a quand même une certaine thématique, toi et moi, aujourd'hui, Mathieu, sans le vouloir vraiment.
Ouais.
Ah, parce que moi aussi, je suis dans les années 80. Hein, ouais. Les années 80. Le fluo. Les courtes de jeans.
Vuarnet. Kilo.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Les Daou 301.
Les t-shirts avec les manches coupées et le paquet de clopes sur l'épaule.
Humeur design.
Les coupes longues.
Comment?
Duran
Duran. Duran Duran. Hungry like the... Donc,
oui.
Et les films aussi qui sont devenus des films cultes pour notre génération. Les années 80 nous ont aussi donné le meilleur, mais souvent le pire, des jeux vidéo basés sur des films. Tout le monde voulait embarquer dans le train des gros blockbusters des années 80 puis faire du fric sur le dos de la franchise. Mais là, c'est pas l'objet de ma chronique. Hein. En fait, je pourrais faire une autre chronique une autre fois là-dessus. Ça pourrait être assez intéressant. Je pense qu'il y en a eu assez des jeux faits sur des films pour en parler longtemps. Bref, aujourd'hui, c'est sur un de ces films ou une série de films que je me concentre. Comme je disais en intro, toute la discussion autour de la réalité virtuelle, du VR et non pas des véhicules récréatifs des dernières semaines, ont un peu éveillé mon esprit de contradiction et j'ai décidé de ressortir mon NES. Nostalgie oblige, j'ai voulu rejouer à un des jeux auxquels j'ai énormément joué quand j'étais jeune. Pour tester la nostalgie, parce que des fois c'est un peu ça rejouer à un de ces jeux-là. Et pour une fois, j'ai pas été déçu, même s'il y a probablement plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec moi sur cette question.
Mais à quoi t'as joué, Dan?
Mais je fais ma longue intro, voici finalement le jeu. Bonus Internet Points pour ceux qui devineront avec le drop.
C'est un arpège en do mineur.
Oui, c'est.
T'as le droit à un gag de musicien par pod, OK?
Pour montage. Pour ceux qui ne sauraient pas, puis je m'attends quand même à ce que ce soit pas mal de monde, hein, je vous donne un deuxième indice, celui-là qui provient du film.
Bon, c'est clair que là, on peut pas mettre le pod sur YouTube cette semaine.
Ben oui, car Karate Kid au NES, développé par Atlus, publié par LGN, tu sais, que l'arc-en-ciel, en 87, basé sur le film du même nom. Ben, je devrais dire les films, là, j'y reviens un petit peu après.
Je suis Hilary Swank. Non, qu'est-ce que
c'est? Hein?
Karate Kid 3. Non,
sinon, quand
j'ai
même...
J'ai compris.
Je suis sûr.
Sinon, assez difficile de trouver de l'info sur la réception de ce jeu-là à l'époque ou sur les ventes. Des fois, sur Internet, tu fouilles un peu. Puis là-dessus, c'est vague. La page Wikipédia fait juste un topo des différents stages du jeu, d'attitude, pas d'informations, rien. Fait qu'on va rester dans la nostalgie, hein, tout simplement, parler du jeu, puis tant pis pour la rigueur scientifique. Donc, pour ceux qui auraient jamais joué, le jeu commence, tu pars le jeu avec la petite musique. Le jeu commence, puis bam, pas d'intro, rien. Tu commences, t'es au tournoi de Hall Valley, qui est la fin du premier film, finalement, là, le tournoi de karaté. En même temps, ça surprend un peu, tu t'y attends pas, mais en même temps, on peut comprendre que si le jeu était basé sur l'histoire du premier film, il aurait probablement fallu qu'il change le nom pour... Get Beat Up for the First Hour Kid ou Violently Bullied Kid. Puis niveau marketing, je suis pas sûr que ça aurait été très efficace.
Ou Window Washing Simulator.
Window Washing Simulator. Fence Painting Simulator.
Ouais, c'est plus ça.
On aurait eu un beau petit jeu précurseur de Cooking Mama.
Ça pognerait à Star, là. Ouais,
sur le DS avec ton stylet. T'sais.
Ou jeu Facebook.
cellulaire. Ouais. VR, fuck it.
VR, c'est cool. C'est beau, ça, c'est un beau petit move de VR audio.
Beau moment radiophonique. Voilà.
Donc, le jeu commence, comme vous disais, t'es au tournoi de All Valley. Puis si t'as déjà joué une fois ou deux, tu prends un gros 25 secondes pour finir le premier film. J'ai chronométré. bref, dans un ring, puis tu kicks littéralement le cul de quatre combattants. Tu fais juste des kicks, puis ils meurent. Ça se fait assez rapidement.
Juste des crane kicks. Juste des...
Même pas des crane kicks, juste des kicks normales.
La grue, merci. Je cherchais, c'était quoi qui fait ce lag?
C'est ça, oui, le crane kick. J'y reviens. Donc, le stage 1 se fait en 25 secondes, et c'est le premier film. Puis on arrive au stage 2 et suivant, qui se passe pas mal plus dans le deuxième film. Donc, tu arrives au stage 2, le gameplay change pour un espèce de side-scroller, platformer, combat, là, où est-ce que tu vas avancer dans le tableau, quelques petites plateformes à faire, puis des bonhommes à combattre, ou tu avances dans Okinawa, hein, comme dans le deuxième film, en combattant des petits japonais qui apparaissent de nulle part, généralement en tombant du ciel et qui crèvent en un coup. Bon, le petit japonais, faut le dire vite, faut le savoir, parce qu'ils ont exactement le même teint de peau que toi, mais tu as vu le film, tu comprends que t'es Okinawa, tu sais pas qu'on est japonais. Voilà, donc le gros problème, c'est que quand eux autres ils te touchent ou te frappent, tu revoles comme 30 pieds par en arrière. T'sais. Eux autres, t'es tué un coup, mais s'ils te touchent, tu revoles par en arrière. Ça serait pas trop mal si c'était pas du fait que dès qu'il y a un trou, on dirait que t'as un gros maudit. Qu'il y a un gros maudit aimant dans le fond du trou, puis toi, t'as une plaque d'acier dans les shorts. Parce que dès que tu passes proche d'un trou, puis tu te fais bumper, pff, tu tombes dans le trou. Puis quand tu tombes dans le trou, ben tu meurs directement. Autre bout de le fun, tu te fais bumper par en arrière, puis un autre ennemi en arrière de toi, t'es parti pour une belle game de ping-pong. Oh.
Puis est-ce que c'est la seule façon de mourir?
Non, tu peux aussi avoir de la vie qui baisse.
Okay. Justement, c'est un jeu de NES.
Belle petite game de ping-pong entre deux bonhommes. Puis ta vie va dropper aussi vite que les pens de Jeff quand il avait 14 ans et que le nouveau catalogue Sears arrivait par la poste.
Je m'en rappelle.
côté gameplay.
je l'ai encore.
Les pages crunchy.
Ta faute, ça.
Alors oui, Dan.
Je me dis ceci des propos de ce podcast. côté gameplay, ben, on se rend compte, surtout au deuxième tableau, que le button mapping aurait pu être plus efficace. Là. T'as un bouton pour les punch, t'as un bouton pour les kicks, puis pour sauter, c'est la flèche par en haut. Oh, ce qui fait que
ça gosse, ça, c'est cœur.
Pas très efficace. Là. En même temps, si tu bouges pas quand tu frappes, tu fais tes special attacks. T'as le fameux crane kick, justement, là, le coup de pied. Puis un espèce de coup de poing qui doit clairement pas être recommandé par aucun physicien ou aucun docteur. Si tu veux pas te déboîter l'épaule, là, c'est juste physiquement impossible quand tu le regardes. Là, le poing va en avant puis en arrière en une seconde, comme quatre fois de suite. Bref, c'est les coups spéciaux. T'as comme un certain nombre de specials de chaque type que tu peux utiliser. Puis la majorité vont te provenir des bonus stages qui se cachent, mettons des gros guillemets, dans les buildings. Là. Quand il y a une porte noire, t'as comme pas mal une chance sur deux qu'à quelque part dedans, il y a un bonus stage de caché. Qui te donne là, ces power-ups-là que tu peux utiliser. Dans le fond, je dirais que les bonus stages, là, c'est peut-être ce bout-là qui est le plus relié directement au film. Là, parce que, tu sais, à part que t'es à Okinawa, le jeu a comme pas trop de lien avec le film, à part des petits éléments très très petits.
T'as pas un tableau où t'es déguisé en douche, puis tu te fais attaquer par des.
Non, ça s'est arrêté dans le Get Beat Up Kid. Non.
J'aurais joué un jeu que c'est juste ça. C'est une douche qui se fait attaquer par des ninjas.
Ah, des squelettes.
Des squelettes, c'est vrai, des ninjas squelettes.
Des squelettes avec un bandeau. Ah, parce que.
C'est pour savoir que c'est des ninjas.
Parce que l'histoire le dit pas, mais j'ai écouté Karate Kid 1 cette semaine à cause de ce jeu-là. Et oui,
moi je me reposais seulement sur ma nostalgie pour pouvoir faire ces références-là.
Non, moi, je suis... ça qui arrive.
Ça que c'est. Hein?
Ça que c'est. Quand c'est comme... Bon, on a Netflix devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Karate Kid. Donc, voilà. Hein, tu peux, comme dans le film, dodger des swinging hammers, là, l'espèce de grosses lames dans le film. Tu peux péter des blocs de glace comme avec des soldats américains. Puis tu peux attraper des mouches avec des baguettes.
Et tu peux devenir un has-been qui fait vraiment jamais d'autres films. À part un film de guitare weird blues.
Ouais. Hein, c'est... Faudrait, je pense pas que je l'ai vu, mais j'ai vu qu'il y avait...
Je l'ai en DVD, c'est correct, je te le prêterai.
Donc... aussi, bon, je reviens à mon jeu. À chaque fois que tu tues aussi le 3-4 ennemis, je pense sans te faire frapper, tu as un power-up qui va apparaître, là, qui est comme la lettre C, là, qui représente le crane kick. Puis quand tu le touches, ça te redonne quelques coches de vie, puis ça te donne un crane kick supplémentaire que tu peux utiliser. Bref, c'est un peu ça. De temps en temps aussi, là, ta vie, c'est baisse pas mal. À certains endroits, il y a des petits bonhommes de Monsieur Miyagi qui apparaissent dans le ciel, qui flottent dans les airs, ou une fille là, qui doit être, j'imagine, la fille dans le deuxième film là, avec qui Daniel se retrouve. Là. mais c'est vague, donc ça reste du NES.
Ça reste LGM.
Moi aussi. Puis que quand tu les attrapes, ben, ils disparaissent quand même rapidement. Il faut que tu les trouves rapidement, mais ta vie remonte quand même pas mal. Bref, au niveau gameplay, ça ressemble à ça. Fait que tu t'habitues au gameplay un peu bizarre de sauter avec la flèche par en haut, puis de si tu bouges pas, que tu scrapes tes power-ups pour rien. Fait que tu es tout le temps en train de bouger de gauche à droite pour frapper les monstres, même si c'est pas très utile. Ça reste un jeu qui est quand même amusant. La musique est pas trop gossante non plus, ce qui est quand même le fun, ni trop répétitive. Puis c'est assez comme particulier quand tu regardes dans un film basé sur un jeu que la musique elle tombe pas ses nerfs parce qu'ils ont pas fait comme off, pèse trois notes sur le clavier, on met ça en boucle.
Tourne-toi à face sur le keyboard.
Ouais, c'est tourne-toi à face sur le keyboard. Comme.
Oui. comme notre gif du processus d'écriture de Divan Quest.
Ouais, vous irez voir sur Twitter. Mais justement, j'ai mis quelques petits extraits là, des stages qui, après le tournoi, là, parce que le tournoi étant très court, la musique est extrêmement répétitive, genre, puis c'en est un coup de trois notes sur le keyboard. Là, ceux qui ont joué vont peut-être se rendre compte que c'est comme bizarrement monté. Là, j'ai vraiment pris des petits extraits très courts en essayant des enchaîner pour voir les différentes transitions, si on veut. Mais les loops sont assez longs. Là. Mettons la première toune. Le loop complet dure une cinquantaine de secondes avant de repartir. Puis oui, à l'intérieur, il y a des trucs qui reloupent un petit peu, mais la pièce là, est quand même assez longue. Fait que j'ai des extraits des trois tableaux après le tournoi.
C'est Guillaume qui va être content.
Voilà. Ben, je l'ai quand même pas trop fort.
Mais la dernière est cool.
Hein? Ouais, la dernière est peut-être la plus répétitive. Là. C'est le dernier tableau du jeu aussi.
Mais là, il y a un groove.
Ouais, ouais. C'est quand même, pour vrai, là, pour un jeu de NES, puis pour un jeu qui a été fait probablement un peu à la va-vite pour vendre des copies, là, c'est quand même pas pire au niveau de la musique. Je suis impressionné. Je reviens au gameplay. Une fois que tu comprends le pattern des ennemis aussi, ça gère assez bien, là, sauf si tu veux descendre un escalier. Ouf. Parce que quand t'as un ennemi qui est plus bas que toi, c'est extrêmement dur de le toucher. Là. Même si tu te penches pour essayer de donner des coups de pied vers en bas, t'arrives pas vraiment à le rejoindre. T'es un peu fuck, là. Je dirais que la meilleure façon, c'est d'utiliser le crane kick dans ce temps-là, parce que ça démolit tout. T'sais. Mais bon, tu te rends compte assez... T'sais, tu peux réussir à jouer autour de ça. Mais bon, c'est dans les petites... Parlant pattern, c'est aussi assez drôle de rejouer à ces vieux jeux-là quand t'es rendu à notre âge. Avec un regard assez moderne, tu te rends compte de plein de trucs que tu voyais pas à l'époque. Exemple, le bonus stage pour attraper les mouches. Ben, t'as 6 mouches qui volent un peu partout que tu peux attraper dans un certain laps de temps. Puis là, plus t'en attrapes, plus que t'as de power-up puis de points qui servent à rien. Là. Moi, c'est pas vrai, les points donnent des vies. Mais quand. Bon, tu te rends compte quand même que ça a l'air random, là, tes mouches qui volent, mais c'est le même pattern. Puis c'est tout le temps le même pattern. Puis je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, je l'avais comme trouvé sans m'en rendre compte. Puis maintenant, je le voyais là, que si tu pars, tu montes la flèche par en haut, t'attrapes tout de suite dès que tu peux, tu rebouges à gauche, tu s'en prends une 3. Tu sais, tu peux en prendre comme 3-4 rapidement.
C'est toujours le même.
Ils sont
jeu,
identiques. Fait que tu peux entraîner comme 3-4 bien vite, puis après ça, ben, tu vois qu'ils font des cercles en se déplaçant un petit peu tranquillement gauche à droite. Fait que c'est facile de spotter où est-ce qu'ils vont être puis d'appuyer à temps. Bref, ça a l'air random, puis ça l'est pas en tout, mais tu t'en rends pas compte quand t'as 6-7 ans. Quand t'en as 30, puis un petit peu d'expérience dans le domaine.
C'est des choses qui peuvent plus se permettre aujourd'hui.
Ben, il faudrait que ce soit plus random. En fait, c'est beau, plus facile aussi de faire quelque chose de plus random aujourd'hui qu'à l'époque, probablement. Là.
Oui.
Voilà, merci de la confirmation. Bref,
on se dit à la passerelle que oui.
Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont plus occupés à la passerelle, ils peuvent nous dire des choses comme ça.
Oh.
Bref, le stageur se fait assez bien. Là, c'est quand même drôle parce qu'à un moment donné, tu arrives à une certaine place parce qu'il y a un champ de choux, puis les ennemis se mettent à te pitcher des choux. Oui, oui, ils pitchent pas des shurikens, pas des couteaux, pas des roches, des choux.
Des shurikens.
Même chose un peu plus loin.
Tant que ça finisse. Voilà.
Même chose un peu plus loin, est-ce qu'ils te pichent des bonsaïs? Au moins, quand il y a le bonsaï, il y a le pot, tu te dis.
Y ont-tu des bonsaïs ricaines aussi?
Oui, des bonsaïs ricaines. Donc, sinon, le fin du premier tableau, il y a un boss qui a rien d'impressionnant. Là. Tu prends une couple de coups de plus pour le tuer. Troisième stage, c'est le typhon, pour ceux qui ont vu le film. Puis là, ben, le typhon, c'est vraiment chiant parce que tu repars un tableau qui ressemble un petit peu au stage 1, mais tu te fais reculer tout le temps avec un vent de face. Il y a des bâtons qui volent puis des oiseaux qui volent à l'envers à cause du vent.
Fait que t'as l'impression de jouer à Dr. Jekyll au NES.
J'ai pas joué, mais oui.
J'imagine. Mais fais jamais ça.
Okay. Okay. Donc, en plus, tu rajoutes à ça un paquet de trous plus qu'avant. J'imagine qu'il y a eu de l'inondation à cause du typhon. T'es tout le temps en train de tomber dans des trous. Je pense que ce tableau-là est pas mal le plus dur du jeu. Pas à cause des ennemis, à cause des calice de trous.
Fait que c'est un simulateur de Montréal, finalement.
Oui. Donc, le niveau de Montréal augmente quand même. Le niveau de Montréal. Le niveau de difficulté augmente quand même une bonne coche à cause des crises de trous. Puis le son suivant, tu l'entends bien trop souvent. Qui est le son quand tu meurs. T'arrives à la fin, il y a un boss. Mais bizarrement, faut pas vraiment battre le boss. Faut grimper dans un poteau parce qu'il y a une petite fille en haut là, qui est coincée à cause de la tempête. C'est hyper contre-intuitif parce que dans le reste du jeu, c'est tout le temps juste de tuer tout le monde. T'sais. Mais bon, une fois que tu as joué, tu le comprends. Quatrième dernier stage, encore une paupière coche de difficulté, surtout au niveau du combat, les ennemis te prennent le double de coups pour mourir. Puis un autre type d'ennemi qui arrive qui fait juste comme avancer tout le temps avec une lance dans les mains. Puis quand il te touche, tu te fais juste revoler par en arrière, puis il te t'accote dans le mur à la fin, puis de te wiper toute ta vie. Fait que là, tu te rends compte que la façon la plus efficace de le tuer, c'est encore une fois le crane kick, qui est la réponse à tous les mots dans la série Karate Kid.
Dans l'univers.
L'univers,
dans
Karate Kid. L'univers. Mais bon, hein, y a
moins... Non, pas de Karate Kid.
L'univers.
OK. C'est de retenir ça. Je ne suis pas sûr si dans ma job, ça peut être applicable.
Dans l'univers de Divan Quest, il faudra que tu trouves la date de la création du crane kick.
Crane kick. On y reviendra.
Probablement un 29 février.
Sûrement. Mais il y a moins de trous, puis pas de vent. Donc, au bout de la ligne, même si les ennemis sont plus tough, c'est quasiment moins dur pareil. T'arrives à la fin, puis là, ben, c'était trop agressif avec le boss parce que tu veux y péter à la gueule. Ben, la fille que tu dois sauver, qui est comme sa même plateforme, recule, puis se calisse dans le trou. Puis là, ben, tu fails. Belle job, championne. Hein. C'est une bien bonne idée. M'en viens de sauver, mais. Bref, si tu comprends le principe, tu vas pas trop loin sur sa plateforme, tu le laisses avancer, tu le tues. Puis là, ben, t'es comme, yes, j'ai fini le jeu. Puis là, t'as un super beau screen avec M. Miyagi qui dit que t'es rendu un martial art master, puis qui te fait un clin d'œil. Et voilà. Puis là, on dirait dans le fond que là, juste un gros caca, mais non, là, j'ai vraiment eu du fun. Un fun fou pour vrai.
Un gros caca.
C'est une belle image.
Oh, on est donc bien rendu family friendly, nous autres.
Juste là. Parce que deux fois devant, elle se calisse dans le trou. Tu sais, fait que j'ai eu du fun. J'étais devant la télé avec mon gros smile dans la face, même si je grognais un peu des fois parce que tu te fais bumper par un nid, tu tournes dans le trou. Mais, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose dans le jeu-là, moi, qui, c'est peut-être la nostalgie qui parle, c'est ce qui fait que j'ai tout, beaucoup aimé. Même si c'est pas toujours évident là, à cause des problèmes de gameplay. Mais les réflexes sont revenus, puis j'ai quand même rapidement réussi à passer le jeu. Un jeu qui est pas très long. Hein. Si on regarde, il y a un complete gameplay sur YouTube là, qui est comme avec écrit No Death, là, comme quelqu'un qui est pas mort une fois, qui se fait en 10 minutes. Là,
attends, fait que tu essaies de me dire que quelqu'un qui joue au jeu, c'est moins long que toi qui viens d'en parler?
Exact.
Calique.
voilà. Mais je serais quand même curieux de savoir ce que d'autres mondes que moi y ont pensé, parce qu'il y a peu de reviews de ce jeu-là sur Internet. Là. Une des seules que j'ai trouvées, c'est la review du Angry Video Game Nerds en 2006.
Ouais.
Qui puis là, tu sais, bon, il.
Très élogieuse.
Si tu l'écoutes, on dirait que ça ne mérite pas d'avoir existé. En même temps, c'est quand même son concept au gars. Là, sinon, tu cherches un petit peu, tu en trouves très peu, puis c'est très varié dans les notes. Là. Fait que mon verdict à moi, si on en parle, ben si vous êtes des fans de jeux de NES, si vous êtes des fans de Karate Kid, si vous êtes des fans de jeux qui se font relativement rapidement, ben moi, je vous conseille d'essayer. Si vous tombez dans un marché aux puces, ben pourquoi pas l'essayer? Là? C'est un jeu de genre 5-7 piastres, mettons. Là. Fait que je donne une note de 3 pattes de divan.
Sweep the leg. You have a problem with that. No sensei. No mercy.
Bon, ben il me reste 2 pattes de divan fonctionnelles, fait qu'un crane kick en pleine face.
Je tiens à faire un petit aparté peut-être, t'as mentionné Matt tantôt que c'était un has-been, mais je tiens à te prendre en erreur.
Je t'écoute.
Ça mettrait une pénalité peut-être. Quand même, si on parle de, comment il s'appelle, Ralph
Macchio.
Macchio, oui. Ouais. Mm-hmm. Qui a quand même, depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui 2016, il y a un film en post-production présentement. Il a toujours, à chaque année, fait au moins de 2 à 4 films.
Oh, mais des caméos souvent.
Mais quand même, mais il y a un caméo où il joue lui-même dans How I Met Your Mother. Exact. Il fait certaines voix dans Robot Chicken. En 92, il joue dans Mon Cousin Vinny. Quand même.
En 92. La référence pour dire que le gars, c'est pas un has-been, c'est en 92.
Il a joué dans quelques épisodes. En fait, dans plusieurs épisodes en 2006-2014 de la télésérie Psych.
OK, ouais.
Entre autres. Fait, il a quand même été actif. Il est quand même plus ou moins un has-been. Petit fait cocasse. Vas-y.
Ben, je m'en dis, il joue aussi dans le. Pour ceux qui. C'est assez obscur comme band, mais il y a un band de rock canadien qui s'appelle Danko Jones. Puis dans leur vidéoclip, il joue le bad guy, il joue le méchant.
Dr. Lee Dorian.
C'est possible, je m'en
rappelle. Dans la balade de Danko Jones.
Ouais, exact.
Exactement. Exact. Ouais. Puis petit fait cocasse, en fait, sa fille a avoué à un blogueur du site people.com qu'elle aimait vraiment beaucoup le regarder se faire tabasser dans Karate Kid.
Le rêve de chaque enfant.
Good show!
Donc, avant la conclusion plus officielle, petit tirage pour le code de Mew.
Pour, oui, la carte Pokémon.
Le code de Pokémon Mew pour Pokémon X, Y, Alpha, Omega, machin. Là. Donc, je fais le tirage à ce moment-ci. Et
pour vos guilty pleasures.
Pour vos guilty pleasures. Et le gagnant est... Mon Dieu, je n'ai qu'une adresse courriel. Je dirais que seulement que quelqu'un qui s'appelle Adéry a gagné le code de Mew. Donc, je le contacterai cette semaine là, pour y offrir, s'il veut que j'envoie par la poste ou le code. Ça ne me dérange pas d'y envoyer la carte s'il veut la garder ou un mix des deux là, pour être sûr que ça se perd normal. Au moins, il y a le code. Bref, je contacterai les personnes en conséquence et puis on regardera de cette façon-là.
Ben, félicitations à Adéry.
Sinon, pour trouver nos derniers épisodes sur le divanquest.com, pour du feedback ou du hate mail, ben sur twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest, vous pouvez faire comme un certain Denis qui a liké la page cette semaine. Oui, oui, pas une personne qui s'appelle Denis, là, quelqu'un qui s'appelle un certain Denis, qui a fait notre petit bonheur.
Si vous avez vu la réaction exacte, comment c'est arrivé, c'est je me pointe sur Facebook et je vois ça, et là, j'arrive dans le chat avec les deux autres gars ici, puis je fais... OK, c'est qui le comique, là?
Et pourtant, mais quand même, c'est quelqu'un qui a vraiment créé cette page-là pour ça, parce qu'il n'y a aucune historique. La page a été créée comme la veille,
donc
le jour même.
Un certain Denis.
Merci, un certain Denis.
Ben, merci, certain Denis.
Ben, encore une fois, merci.
Vous pouvez nous rejoindre aussi par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts sur le rzoweb.com, dont il était question là, dans les dernières semaines... à entrée principale, la Radio-Canada.
Oui, puis justement, le RZO a eu une mise à jour récemment qui permet de créer des comptes.
Créer des comptes.
Puis qui permet de garder votre position dans les podcasts si vous faites pause. Donc, des belles choses à venir pour RZO. Mm-hmm.
C'est tout à fait quelque chose qui va être le fun, un beau développement à suivre. Sinon, dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com, aussi sur iTunes, commentez, cliquez les 5 petites étoiles. Vous pouvez faire cette semaine comme B.I.O. Bob, le Bring Your Own Bob, c'est toujours pratique, qui dit « Les chroniqueurs sont attachants, sympathiques et l'ambiance est conviviale. La dose d'humour et l'authenticité des opinions ne fait qu'ajouter à l'expérience du beau travail. Ben, » un gros merci, B.I.O. Bob.
Je pense que c'est trompé de pod, là.
Mais on va le prendre quand même.
Chapeau.
Merci. Merci, Bob.
Donc, on se revoit dans 2 semaines.